Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique.
Le pardon, est-ce que c'est un sujet qui attire ? Parce que le pardon, on en a déjà entendu parler, non ? Qui n'a pas entendu déjà des messages sur le pardon ? Qui n'a pas fait des séminaires sur le pardon ? Et puis, c'est un thème, on sait d'avance ce qu'on va dire dessus, quoi. On va pas nous dire de ne pas pardonner. On va pas exagérer non plus, vous voyez ? On sait d'avance comment elle va finir cette histoire. Et on n'a peut-être pas envie de nous y engager. On n'a peut-être pas envie de trop se creuser la tête et surtout aller fouiller en nous pour réfléchir sur cette question. Parce que le pardon, c'est le thème central de la Bible, c'est le thème central de la vie chrétienne. Et puis, si on en parle aujourd'hui, et si on en parle tant dans la Bible, parce que, qu'on le veuille ou pas, on est confronté. Non ? On pourrait peut-être croire qu'on n'est pas confronté avec des questions comme, je sais pas moi, comment élever nos enfants ? Tout le monde n'est pas confronté à cette question. Comment vivre le célibat ? On n'est pas tous confrontés avec cette question. Comment gérer une maladie ? On n'est pas tous confrontés à cette question, en tout cas pas de la même manière, vous voyez ? On peut avoir juste des rhumes de passage, mais comment vivre la maladie ? On n'est pas tous confrontés avec cette question. Mais le pardon, c'est compliqué, non ? Est-ce que... qu'on le veuille ou pas, on est confronté avec cette question-là. Parce qu'un jour ou l'autre, nous avons pu vivre une situation où on a eu mal. Non ? C'est obligé. Je vous propose tout au long de cette journée de cheminer. Je vous propose d'y aller doucement. C'est bien pour ça qu'on a mis le pardon, c'est un cheminement. De ne pas aller trop vite, de ne pas trop griller les étapes, de ne pas vite conclure. Eh bien, écoutez, mes sœurs, vous connaissez la fin de l'histoire, il faut pardonner. Bon, allez, on plie les bagages et on rentre chez nous. Mais d'y aller tout doucement pour voir comment nous pouvons cheminer avec le pardon. Oui, je disais, on a tout un jour ou l'autre rencontré quelqu'un qui nous a fait du mal. Il y en a qui s'est jamais arrivé ? Elle va pas oser dire moi, hein, donc c'est. Et qu'est-ce qui nous arrive ? Qu'est-ce qu'on ressent dans ces situations ? Le cœur serré ? La gorge nouée ? On est parfois pris de vertige ? Il y a quelque chose qui nous paralyse et puis il y a plein de pensées qui nous viennent tout de suite. Mais comment il a osé me faire ça ? Comment elle a osé me dire ça ? Et puis on n'arrive plus à décrire ce qui se passe en nous parce qu'on ne s'y attendait pas et on est surpris. Ce genre de scénario n'a rien de bien exceptionnel. Parce que pourquoi nous sommes confrontés à cette question du pardon ? Parce que tout simplement nous vivons ensemble. Et quand nous vivons ensemble, quand il y a des êtres humains qui sont ensemble, eh bien on se fait du mal. Pour ne pas être confronté à la question du pardon, il faudrait vivre sur une île déserte, s'y cacher et n'avoir rapport de lien avec personne peut-être. Et encore, je ne sais pas si on ne serait pas capable de se faire du mal à nous-mêmes. Et puis, nous avons des sensibilités différentes et chacun réagit à cette offense qui nous est faite, à cette blessure qui nous est faite à sa manière. Chacun le vit avec ses émotions ou avec son intelligence. Et puis c'est pas toujours évident de prendre du recul et souvent on vit les choses au premier degré, là justement dans l'instant. Pourquoi je dis qu'il faut pas aller trop vite et qu'il faut y aller tout doucement? Eh bien parce que il faut prendre en compte de ce que le mal, l'offense qu'on nous fait en nous. L'offense, quand on nous fait du mal, c'est une atteinte directe à notre relation. Ce n'est pas uniquement un acte ou une parole, mais c'est une interprétation peut-être, mais c'est une démonstration d'un manque d'amour. C'est une agression de la part de l'offenseur. Ce qui fait que quand on nous fait du mal, eh bien, à part l'acte en lui-même, il y a une rupture de relation. On s'isole et puis on peut être plongé dans une solitude. Et cette offense, elle est autant plus grande que la personne qui nous a offensés est importante pour nous, non? Que quelqu'un qu'on connaît à peine nous dise un mot de travers va bien moins nous toucher que quelqu'un qu'on aime vraiment, non? Qu'une amie proche, quelqu'un en qui nous avons vraiment confiance. Et voilà, une première réaction à cette offense, c'est une déception, une difficulté à gérer ça. Et puis cette blessure qui est dans notre cœur, si on la laisse comme ça, elle peut s'engrainer. Et en s'engrainant, cette blessure qu'a provoquée une parole ou un geste, eh bien, se transforme petit à petit en amertume. Et l'amertume peut se transformer en rancune. Et puis, la rancune, avoir envie un désir de réparation, un désir de justice. Et puis, la colère, elle monte. Et cette colère qui est aiguisée par cette douleur peut se transformer aussi tout simplement en vengeance. On va petit à petit cheminer et puis voir un peu ce qu'on va faire de cette colère un peu plus loin. Mais malgré tout ça, il peut arriver aussi que juste on se donne même pas le droit d'avouer qu'on a un peu tous ces sentiments, non? Moi, je suis quelqu'un qui aime gérer mes émotions. Et tous ces sentiments, il m'est très difficile même d'avouer que je les ai. Même d'avouer que je suis pas contente envers quelqu'un, vous voyez. Et on peut essayer juste de les évacuer parce qu'on se donne pas le droit. On se donne pas le droit d'être rempli de douleur, d'avoir une blessure. On se donne pas le droit d'être en colère. On se donne pas le droit d'avoir besoin et envie de réparation. Alors voilà, on peut surmonter ça aussi en étant dans le déni. Non, 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 mais ça va, tout va bien. Oh oui, oui, tout va bien. Et puis le problème de tout ça, c'est que cette question du pardon, qu'on le veuille ou pas, tout nous y ramène. Voilà, on vient tranquillement et puis on chante un chant. Et dans ce chant, on entend « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Et puis voilà, dans Matthieu 6, on va lire ces versets. Je crois que ça commence par ce verset-là. Et puis voilà que Jésus nous enseigne à prier et qu'il nous dit « Voilà comment vous devez prier ». Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Est-ce que dans vos assemblées, vous priez le Notre Père tous les dimanches? Non? Oh, à Florence, on le fait en arménien? Non. Alors, je suis très contente de voir Florence. Florence, c'est ma petite de l'école de dimanche. Hein. Bon, elle me dépasse j'allais dire de 3 mètres, mais pas loin. On s'est connus à l'église évangélique arménienne. Oh, t'es arrivée, t'avais quel âge? Voilà, vous voyez, et puis t'es partie, t'avais... Voilà, donc pendant tout ce temps, nous étions ensemble. Je crois qu'elle m'a eu comme monitrice à l'école de dimanche, aux ados, aux jeunes. Et puis, le centre aéré du mercredi, c'est vrai, avec sa maman, on faisait ça. Et puis Florence, elle est française, hein, elle s'appelle Valette, de son nom de jeune fille. Et puis c'était la première qui apprenait tous les chants en arménien. Alors... Voilà, le grand des merveilleuses, on s'est fait un clin d'œil parce que nous, on le chante en arménien aussi. Hein. Et le Notre Père, on le récitait dans nos églises, dans les églises évangéliques arméniennes, à la fin du culte, en arménien, on le récitait. C'est une prière qui a tellement de place importante dans notre liturgie, dans notre vie d'église, que tout nous ramène. Voilà comment vous devez prier. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du tort. Et un peu plus loin, Jésus continue en disant « Si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. » Ils sont bien difficiles ces versets, vous ne trouvez pas? Vous êtes à l'aise avec ces versets? Moi, je ne suis pas du tout à l'aise. Je ne suis pas du tout à l'aise et j'ai remarqué qu'à un moment donné de ma vie, je pouvais les lire tranquillement, parce que tout allait bien. Je trouvais que c'était très beau et bien logique que de pardonner, que c'était la moindre des choses. Le pardon n'est-il pas au cœur de la vie chrétienne? Et je m'offusquais, je me disais, mais comment un chrétien ne pourrait pas pardonner, c'est qu'il n'est pas vraiment chrétien? Je vous assure que je pensais ça. mais pendant très longtemps, hein. Parce que jusque-là, j'avais eu que des petits bobos. Des petits bobos qu'on m'avait fait. Et puis les petits bobos, ils étaient faciles à pardonner. Alors je pardonnais. Je pardonnais. Et puis un jour, j'ai eu un gros bobo dans ma vie. Ça vous est arrivé, ce genre de gros bobos? Vous savez, les gros bobos qui nous mettent par terre. Les gros bobos qui nous cassent complètement. Le truc qui vous tombe sur la tête, vous dites, mais c'est pas possible. Le truc que même dans le pire cauchemar, vous pouviez pas imaginer qu'un frère puisse vous faire ça. Que des gens que vous aimez tant, avec qui vous êtes tant engagés, puissent vous faire ça. Alors, je fais une petite parenthèse un peu personnelle pour vous donner aussi mon cheminement dans cette réflexion du pardon. C'était Femme de Mille en Belgique, voilà, qui m'avait demandé de traiter ce sujet. Alors, j'avais dit oui, parce que pas de problème. Pas de problème, moi, je peux parler sur ce sujet. Et j'ai commencé à travailler ce sujet. Je connais ma Bible, je vais l'étudier. Je me suis dit, c'est génial, j'ai l'occasion, là, de prendre un thème et d'étudier dans la Bible comment on parle de ce thème. Et j'ai essayé de le faire. J'ai lu tout ce qui se passait, tous les livres qui sont sortis sur le pardon. Et puis, pendant que j'étais en train de faire... de préparer ce sujet, ce gros bobo est arrivé. Ah, je vous assure que j'avais envie de brûler tous les livres que je lisais. Hein. J'avais envie de prendre tous ces textes bibliques et de les arracher de ma Bible et de dire non, non, je ne peux pas. Parce que le mal qu'on nous fait, il fait mal. Il fait mal et il nous met par terre. Voilà, je vous raconte juste mon cheminement pour vous dire comment le Seigneur a travaillé mon cœur aussi. Qu'on vienne pas me dire, il faut que tu pardonnes. Et qu'on vienne pas comme ça me dire tout de suite, pendant que j'étais en train de vivre ce gros bobo, oh, il faut que tu pardonnes, tu sais. Non, il faut que tu pardonnes. Ces versets sont devenus insupportables pour moi. Pourquoi? Parce que je trouvais ça injuste. Je trouvais que c'était injuste de pardonner comme ça. Et j'avais l'impression que pardonner, ça rajoutait de la souffrance à ma souffrance. Vous voyez? Moi, j'avais envie de crier ma souffrance et puis qu'on vienne me dire « pardonne ». Je disais « mais c'est trop facile. C'est trop facile de pardonner. » Ça vous est arrivé de penser à ça? C'est trop facile de pardonner comme ça. Après tout le mal qu'on me fait, et là je viens « pardonne » juste parce que je suis chrétienne et que je veux suivre le Seigneur. Pardonne, je trouvais ça trop facile. Et puis à côté de ça, en face de mon incapacité à pardonner, en face de toute cette révolte que j'avais dans mon cœur quand on me disait « mais il faut que tu pardonnes » et quand je pensais à ces versets, et on a en face de nous des témoignages qui nous laissent sans voix, des témoignages comme ceux, par exemple, de Corrie ten Boom, pour ne citer qu'elle, et d'autres qui ont eu cette capacité de pardonner. Et on se dit, mais moi, j'y arriverai pas. Moi, j'y arriverai pas. Alors, il y a cette lutte dans mon cœur entre ce qui est beaucoup plus naturel, c'est la colère, la vengeance, oui, et puis de l'autre côté, ces versets qui sont tout au long de la Bible. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Comme nous pardonnons. Je voudrais, en préambule aussi, dire quelques pièges dans lesquels on peut tomber quand on va trop vite. Quand quelqu'un nous vient nous dire « Allez, il faut que tu pardonnes », eh bien, on peut aller trop vite et on peut tomber dans les pièges suivants. Je peux pardonner à l'autre juste par condescendance. C'est ce que j'avais fait jusque-là pour tous ces petits bobos dont je vous parlais, hein. Par condescendance, oui, je veux prouver à mon offenseur que je suis bien plus mûre spirituellement. Que moi, j'ai fait du chemin avec le Seigneur, que j'ai avancé avec le Seigneur. Et puis voilà, je veux bien te pardonner. Je veux bien, du haut de mes 1m50, moi, non, 53 peut-être, hein, en cherchant bien. Je veux bien, moi, il y en a qui sont rassurés, qui se disent qu'elles sont pas bien plus grandes, c'est ça? Vous voyez, je fais de l'interprétation qui me rassure, là. D'ailleurs, vous me voyez? Bon, en même petite blague, dans l'église où je suis, ils sont tous grands et la chair est haute. Et puis, quand je suis arrivée dans cette église, mon papa qui était béniste, il a eu pitié de moi. Il m'a fait, un petit strapontin là, enfin, pour que je puisse me lever, me mettre dessus. Et depuis, on se moque tout le temps de moi. Voilà. Mais ça, c'est juste par amour qu'ils se moquent de moi. Ils me disent, ah, c'est Gémant aujourd'hui qui prêche. Allez, on va mettre le petit tabouret pour elle. Et vous voyez, on peut, même en étant petite, on peut se sentir grande. Et puis, par condescendance, on peut se dire, oh, allez, il faut que je lui pardonne. Lui, il est nouveau dans la foi. Lui, il n'a pas encore tout compris. Moi qui ai tout compris, je vais lui pardonner. Ah, ça c'est sûr que ce pardon-là serait synonyme d'un certain orgueil. D'un certain orgueil qui, au lieu de libérer l'autre, va finir par l'écraser. Non ? J'écrase l'autre par mon pardon. Un autre piège dans lequel on pourrait tomber en voulant pardonner trop vite, c'est je peux pardonner juste pour ne pas avoir mal moi-même. Voyez, je veux bien lui pardonner parce que ça me fait trop mal. Alors pour échapper à cette douleur, pour échapper à y réfléchir un peu plus, pour refouler le souvenir du mal qu'on m'a fait, vite, je pardonne, comme ça j'y pense plus. Voyez, je pardonne, comme ça j'y pense plus. Non, mais c'est bon, je te pardonne, ouf, allez, c'est fini, c'est réglé. Mais vous le savez aussi bien que moi, ça revient, hein. Et ça revient peut-être pas tout de suite, peut-être pas dans les mois à venir, mais même des fois des années après, ça remonte. Et des années après, d'un coup, il y a un petit truc de rien du tout qui arrive et on est terrassé. C'était pas prévu, mais dans notre église, on fait dans prédication le sermon sur la montagne. Alors du coup, on a parlé du pardon il n'y a pas longtemps et on en a parlé et puis quelqu'un est venu et qui est marié maintenant depuis quelques années, qui m'a rappelé une parole qu'il a entendue quand il a annoncé à un frère qu'il allait se marier. Et il m'a dit, pendant cette réflexion sur le pardon, cette parole m'est revenue. Et ça fait des années que c'est passé. Moi, je croyais que c'était fini, cette parole. Et puis, j'ai commencé à pleurer et ma douleur était encore plus vive que le premier jour. C'est juste parce qu'il l'avait refoulée. Il l'avait refoulée et puis elle revenait. Et il ne se rendait même pas compte que cette parole qu'il avait refoulée avait coupé sa relation avec cette personne. Parce qu'il ne pouvait plus la voir sans se rappeler de cela. Et puis, vous savez, on peut être dans la même église et ignorer quelqu'un. Hein ? Non ? C'est possible. Donc il avait continué à vivre sa vie d'église tranquillement sans faire attention à cette personne. Voilà. On ne peut pas pardonner juste pour ne pas avoir mal ou pour ne pas prendre la chose au sérieux. Un troisième piège dans lequel on pourrait tomber, et ça, moi, je tombe très facilement dans ce piège, c'est quand celui qui m'a fait du mal essaye, pour se rattraper, de devenir super gentil. Hein ? Je te donne un coup et après, oh là là, je suis tellement gentille avec toi. Et puis, du coup, on se sent pris au piège et on ne se donne plus le droit de lui en vouloir du mal qu'il nous a fait. Vous voyez le scénario ? Alors c'est, il me pousse à pardonner alors que juste parce qu'elle est trop gentille. C'est enregistré, je crois, hein. C'est ça, hein. C'est enregistré. Alors il y a certaines choses que je vais pas oser dire, peut-être. Pareil. Bon, allez, on ouvre une petite parenthèse, hein. Par exemple, c'est ce qui se passe souvent avec mon mari. On va s'envoyer des piques, voilà, il va me dire quelque chose qui va me blesser, et puis après il va être tout le temps super gentil. D'un coup je vais rentrer dans la cuisine et puis tout est propre, nickel, la vaisselle est bien lavée, tout est propre, et puis d'un coup il va me dire, alors tu vas bien, t'es pas trop fatiguée? Et moi j'ai juste envie, c'est qu'il me dise, je suis désolée de t'avoir dit ça. Et puis il comprend pas pourquoi je reviens là-dessus. Je lui dis non, mais attends, on va en rediscuter. Il dit oh, mais arrête, on est tout le temps en train de revenir en arrière. Lui, il a juste envie de partir en avant. C'est sa façon à lui de me dire qu'il m'aime et qu'il regrette. Et moi, j'ai juste envie qu'il le dise de sa bouche, qu'il le dise. Et puis voilà, vous voyez, c'est l'autre est gentil, il essaye de se rattraper, mais juste on ne se pose pas en disant je te demande pardon. Mais je dois faire pareil, hein, et ça se trouve, je fais pire. Pourquoi nous avons besoin de pardonner ? Parce que si on parle de la question du pardon, c'est parce que le mal existe. Le péché est venu entraver le plan de Dieu. Dieu voulait que nous ayons des relations harmonieuses d'abord avec lui et nous entre nous. Et puis l'être humain, il a voulu faire à sa guise. Et puis nous avons glissé de la paix qu'il nous offrait à la guerre qu'on a choisie. Nous avons refusé de vivre en lui, lui en nous, et nous entre nous avec lui. C'est l'apparition du mal qui a fait que l'homme et la femme ont été coupés de la présence de Dieu. Nous qui avons cru qu'on peut vivre indépendant et on pouvait ne pas être soumis à Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a cette question du pardon, parce que tout simplement, eh bien, il y a ce mal. On va revenir à ce mal et pouvoir ce que Dieu va en faire. Alors, j'essaye d'enlever un peu toutes les choses qui pourraient nous encombrer pour parler du cheminement du pardon. Alors, s'il ne faut pas pardonner trop tôt parce que le mal, il est là et il est mal, s'il ne faut pas pardonner trop tôt en essayant de se déguiser juste pour oublier, pour partir en avant, je voudrais maintenant dire aussi quelques mots sur ce que le pardon n'est pas. Ça, on va aller voir un à un affiché. Oui, non, mais un à un, c'est bon, il y a du temps. Pardonner, comme on pourrait des fois se le dire, ce n'est pas juste tourner la page, ne plus revenir sur le passé, nier le passé et oublier. Est-ce que pardonner, c'est oublier? Est-ce qu'on peut oublier? Par exemple, on va souvent se baser sur ce que Dieu dit dans Ésaïe 43, quand il nous dit que Dieu nous pardonne et qu'il oublie. Mais ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas amnésique. Quand il est dit que Dieu oublie, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que Dieu ne vient pas nous rappeler à notre oreille sans cesse ce qu'on a fait. Il vient pas me dire sans cesse à mon oreille, Gemma, si tu savais tous les péchés que je t'ai pardonnés. Tous les matins, il vient pas me rappeler tous mes péchés. Il me rappelle quoi tous les matins? C'est sa bonté qu'il renouvelle tous les matins. Il renouvelle pas le souvenir de mon péché. Il renouvelle sa bonté tous les matins à mes oreilles. Donc pardonner, ça veut pas dire j'oublie. Et du coup, des fois, il y en a qui disent, ah mais oui, mais si t'y penses, c'est que tu n'as pas pardonné. Une fois, on était dans un séminaire comme cela, et il y a une dame qui est venue me voir et elle m'a dit, deux sœurs sont venues, l'une qui amenait l'autre, donc la deuxième a été convertie depuis peu, et la première, c'était sa grande sœur spirituelle. Et il y avait un problème, c'est que donc celle qui est plus jeune, elle ne voulait pas que sa fille aille seule chez ses parents. Elle me disait, écoute, voilà, je veux pas que ma fille qui a 7-8 ans puisse, j'arrive pas à la laisser seule chez mes parents, toute seule, etc. Donc à chaque fois, je suis avec elle. Et l'autre lui disait, tu vois, Gemma, elle fait pas confiance à ses parents, elle veut pas l'amener là-bas, et ses parents, ils en souffrent, etc. Alors je trouvais ça un peu bizarre, non? C'est un peu bizarre de ne pas vouloir laisser sa fille chez ses parents. Je me suis dit, tiens. Et puis on essaye de discuter un peu et je lui dis juste, mais pourquoi tu ne veux pas laisser ton enfant chez tes parents? Il y a un problème? Et cette dame s'est mise à pleurer. Elle me dit, c'est parce que quand j'avais 7-8 ans, mon papa, il a commencé à me toucher. Alors on est d'un coup là en face et l'autre sœur lui dit, oui, mais ça tu l'as déjà pardonné, c'est fini. Tu sais bien que on en a parlé longuement et c'est fini, tu l'as pardonné. Et pourquoi tu y penses encore? Si tu as pardonné, tu dois plus y penser. Vous voyez comme ce serait dangereux d'oublier? Vous me suivez? Vous me suivez comme c'est dangereux d'oublier? Parce que quand on oublie ou on oublie l'offense, eh bien, on se méfie plus. Et cette femme, elle avait besoin encore de se méfier. Et comme par hasard, elle commence à y penser quand sa propre fille, à l'âge qu'elle avait elle, vous voyez, à cette période-là. Et c'était bon qu'elle s'en souvienne. C'était bon qu'elle sécurise sa fille. C'était bon que même si son père l'avait reconnu, qu'il avait demandé pardon, etc., qu'elle ne présente pas une situation de danger. C'était bon, vous voyez. C'est important de ne pas oublier juste parce que soi-même, eh bien, on pourrait retomber dans les mêmes pièges. Mais ça veut dire quoi aussi ne pas y penser tout le temps? Ça veut dire que cette offense qui est sur une page, je tourne la page, je n'ai plus de rancune, j'ai géré ça. On va le voir hein, tout au long de la journée, comment gérer cette histoire-là. Je n'ai plus de rancune, je n'ai plus de colère. Ça fait partie de ma vie, mais c'est tourné. Ce n'est plus dans mon quotidien, ça ne vient plus empoisonner ma vie. C'est ça, tourner la page. Ça ne veut pas dire que j'ai oublié. Quand on tourne les pages d'un livre, ce qui a été avant, il reste écrit. Mais ce n'est plus ce que je suis en train de lire, ce n'est plus ce que je suis en train de vivre. Pardonner, comme on l'a vu aussi, ce n'est pas excuser vite à la hâte. C'est pas comprendre ce que l'autre a fait pour l'excuser. Ah, mais je comprends, moi aussi j'aurais fait pareil. Ah, mais je comprends. Vous voyez cette mauvaise façon de comprendre et pour excuser. Pardonner, ce n'est pas minimiser les faits. Oh, c'est pas grave, ça aurait pu être pire. Oh, tout le monde le fait, hein, c'est pas trop grave. On minimise les faits. Oh, c'est beau. Et ça, je l'ai souvent vu dans des problèmes de couple. Moi, j'ai vu une femme qui se faisait battre par son mari tous les jours, le matin surtout, au réveil. Et elle me disait, oh, tu sais, il n'y a pas que moi, il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres qui subissent la même chose, ce n'est pas que moi. Voilà. Pardonner, ce n'est pas minimiser les faits. Pardonner, ce n'est pas aussi arrêter de souffrir. Voyez, cette femme dont je vous parlais tout à l'heure, elle continuait à souffrir, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas pardonné. « Je te pardonne », ce ne sont pas des mots magiques qui vont enlever la souffrance. Des fois, la douleur, elle a besoin de temps pour se cicatriser. La blessure, des fois, elle est tellement profonde qu'elle a besoin des pansements, de l'amour de Dieu jusqu'à ce que ça se cicatrise. C'est juste pour ne pas confondre les deux, hein, voilà. Pardonner, ce n'est pas dire que l'autre est innocent. Pardonner n'est pas absoudre le pécheur, hein, j'enlève ta faute. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est à ce niveau-là, on ne pardonne pas comme Dieu pardonne. Hein. Dieu, il enlève, il nous déclare innocent, mais nous on n'a pas cette capacité. Pardonner, ce n'est pas ne rien dire. Ce n'est pas se taire. Ce n'est pas être un paillasson. Vous savez, on utilise mal ces textes qui disent « ne jugez pas ». Et on se dit « ah non, mais il ne faut pas que tu juges. Donc si l'autre, il te frappe, il faut que tu tendes la joue droite. Enfin, droite ou gauche, ça dépend du premier de la première gifle. Et on se dit « mais non, mais il faut juste que tu sois un paillasson. Tu ne dis rien. Tu encaisses. Et tu encaisses en silence. » C'est pas ça, pardonner. Et pardonner, parfois, c'est pas aussi baisser les bras et arrêter de lutter pour qu'il y ait une vérité et une justice. Pardonner, parfois ce n'est pas aussi refaire confiance tout de suite. On va voir aussi, surtout cet après-midi, la différence entre pardonner et se réconcilier. Cette femme, elle avait besoin de preuves pour refaire confiance à son père. Vous voyez? Et c'est légitime. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas pardonné si elle ne refait pas confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Si quelqu'un me fait du mal, je pardonne, mais ça ne veut pas dire que je vais faire tout de suite trop confiance. Il faut un cheminement pour cela. Et parfois, pardonner, prendre du temps, c'est pas qu'une fois. Des fois, on pardonne une chose, et puis après, on chemine, et puis il y a comme des ramifications du mal qu'on nous a fait. Hein. Il y a plein de petites choses qui nous reviennent, les effets collatéraux de cette offense-là. Et puis, on est amené à nouveau à pardonner tous ces effets collatéraux. Alors, on va continuer notre réflexion avec un texte central. C'est le texte de Matthieu 18, verset 21. Et ça reprend aussi ce que notre sœur disait. Vous pourrez suivre la lecture sur le mur. Matthieu 18, 21, il y a Pierre, comme nous, qui a aussi un peu des soucis avec cette question du pardon. Jésus venait de dire aussi qu'il faut pardonner, etc. Et puis Pierre, je l'imagine en train d'écouter là l'enseignement de Jésus. Et puis comme nous, hein, vous écoutez, puis ça vous renvoie des choses que vous avez vécues, ça vous renvoie des situations précises. Je suis sûre que Pierre, ça lui a fait un truc pareil. Hein. Il est là, il écoutait Jésus qui disait qu'il faut pardonner, que si on ne pardonne pas, lui, il ne va pas nous pardonner. Et puis il a réfléchi, il a dit quand même, il doit avoir une histoire là, il doit avoir une limite. Et il s'approche de Jésus, lui dit, mais Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Et puis Pierre, c'est un bon, hein? Pierre, il est bon, il dit, oh, jusqu'à 7 fois? À votre avis, s'attendait à ce que Jésus lui dise quoi? Ouais, 7 fois? Bravo, mon petit Pierre! Bravo! Oui, j'imagine comme ça Pierre, hein, ça se trouve c'était pas comme ça, mais ça c'est... Je prends la liberté de l'imaginer dans cette situation. Est-ce que je peux pardonner jusqu'à 7 fois ce qui est déjà énorme? Voyez? Ce qu'on était en train de dire, hein, c'est ce que vous souleviez. 7 fois. Et Jésus dit non. Il lui dit pas bravo. Il lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Si Pierre avait dit 8 fois, Jésus aurait répondu jusqu'à 80 fois 8. Enfin, voyez, c'est juste pour lui dire, non, jusqu'à 70 fois 7 fois. Et puis, peut-être que, comme Pierre, on est là, abasourdi, parce que pour comprendre cette question du pardon, il faut juste oser se dire, mais pourquoi? Pourquoi je vais pardonner? Voyez? C'est ça. Pourquoi je vais pardonner? Et Jésus, il a senti cette question sous-jacente. Alors, comme à son habitude, il donne une parabole. Vous savez, les paraboles sont là pour nous souligner une vérité très facile à comprendre. Vous verrez, toutes les paraboles, elles soulignent une vérité très facile à comprendre, mais très difficile à accepter. En général, les paraboles, c'est ça. Quand c'est facile à comprendre et vraiment difficile à accepter, Jésus utilise cette méthode de la parabole. Il dit, tu sais, voilà à quoi ressemble le royaume des cieux. Il y avait un roi qui décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commença à le faire quand on lui en amena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme, j'ai calculé, donc là c'est en français courant, donc il met juste une énorme somme d'argent. J'ai calculé, je vais vous dire mon calcul, c'est quelque chose de l'ordre de, donc à l'époque il fallait, une journée de travail c'était un talent qui fait 6 000 deniers, il fallait travailler 163 934,42 années de travail. Voilà. Cet homme, 163 934,42 années de travail pour gagner cette somme. Cet homme n'avait pas de quoi payer. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser aussi la dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit, « Prends patience envers moi. Et je te paierai tout. » Le maître, ce qui est impossible, le maître en eut pitié. Il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Alors je refais mes calculs, il devait 100 deniers. 100 deniers, c'est 100 jours de travail. L'été, quoi. 3 mois de travail, vous voyez à peu près? Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant, « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes, « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et ils allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur. » On a besoin de respirer après un tel texte. Hein? Pour expliquer pourquoi il faut pardonner, Jésus met en situation il met en mouvement deux situations en parallèle avec des issues bien différentes. Voilà un homme, un roi, qui décide de régler ses comptes. Voilà un serviteur aussi qui rencontre un compagnon avec qui il a des comptes. C'est une question d'argent avec une somme bien précise. Il décide de compter. Le roi, il ne lui dit pas « tu me dois quelque chose que je ne sais pas trop ». Il a pris le temps de compter combien il devait. Et le serviteur, il savait exactement combien son compagnon lui devait. Dieu ne fait pas avec nous comme vous savez, à l'époque où il y avait Jacques Martin avec l'école des fans où tout le monde a gagné. Il fait pas avec nous un truc du style, bon écoutez, allez, on fait, tous les péchés sont pardonnés, ça y est, c'est fini, tout le monde, tous les péchés sont pardonnés. Dieu, il prend en compte chacune de nos offenses. Dieu, il connaît le mal que nous faisons. Et cette parabole est là pour nous dire aussi que chaque offense doit être prise en compte. Reconnaître la l'offense, reconnaître la blessure, reconnaître la violation de ma personne, reconnaître la dette. Parce que quand quelqu'un fait une offense, eh bien, c'est comme s'il contractait une dette. Ça veut dire que dans cette question du pardon, on est obligé de faire face au mal. Sinon, c'est un pardon rapide, comme on l'a vu, c'est refouler une blessure, c'est rester dans le déni. Qu'est-ce qui a été atteint en moi? En quoi ça m'a fait mal? Cette parole, pourquoi elle m'a blessée? Qu'est-ce qui m'a touchée? L'attitude de telle personne, qu'est-ce qu'elle m'a fait du mal? Identifier le mal, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, ne pas dire bon, c'est du mal, c'est le mal, mais identifier le mal. Et quand on a pris le temps de l'identifier, et il faut prendre le temps de l'identifier, on est aussi un peu obligé de faire le tri entre notre responsabilité et la responsabilité de l'offenseur. Il y a des situations où clairement il y a un offenseur et un offensé. Mais très souvent dans nos relations, la frontière elle est un peu mince. Des fois on le cherche aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et que quelqu'un nous fait du mal, mais c'est peut-être en réponse au mal que nous avons fait, vous voyez. L'autre, il y a des responsabilités parfois partagées. Et on a besoin de prendre le temps et de faire, il y avait juste un slide, de faire le tri entre ma responsabilité et la responsabilité de l'offenseur. Dieu, il prend en compte mon péché. Est-ce que je peux moi aussi prendre en compte l'offense qui m'a été faite et compter? Dieu, lui, il n'est pas co-responsable. Là, avec lui, la responsabilité, elle est très claire. Moi, j'en ai une et pas lui. Mais parfois, moi, je dois faire le tri entre ce qui est de ma responsabilité et ce qui ne l'est pas. Des fois, on pique quelqu'un qui réagit et puis voilà, il faut juste reconnaître chacun sa part. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein, attention, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais parfois, il y a un tri à faire. Et puis, prendre le temps d'écrire tout cela. Je voudrais qu'on prenne juste 2 minutes, peut-être, dans le silence. Et vous avez, je vois, des feuilles sur vos tables. Si jamais tout ce qu'on a raconté depuis une petite heure, là, vous a fait ressortir des choses, vous avez fait penser à des situations que vous vivez, moi, je voudrais vous encourager à l'écrire. Mais attention, c'est pas de l'introspection, hein. On va pas aller chercher au fond de notre vie toutes les fausses offenses qu'on a subies et qu'on n'a pas pardonnées, pas du tout. Mais c'est juste au cas où le Seigneur vous le montre. C'est au cas où un souvenir vous vient. Au cas où il y a votre émotion qui soit touchée par quelque chose. Au cas où, hein. Au cas où le Saint-Esprit vous révèle une blessure qui est une douleur qui est en vous, eh bien de prendre le temps de le noter, tout simplement. Dans la prière du Notre Père, il nous est dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si on prend ce texte un peu à l'envers, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, eh bien, cet exercice de l'écrire, c'est, eh bien, qu'est-ce qui m'a offensé? C'est quoi cette offense? C'est quoi? J'ai été touchée où? J'ai été touchée dans mon amour propre? J'ai été touchée dans ma personne? Qu'est-ce qu'on m'a pris? Qu'est-ce qu'on m'a enlevé? Et puis, ceux qui m'ont offensé, c'est de mettre des noms. Ça, c'est peut-être un peu plus compliqué. Ceux qui m'ont offensé, il y a quelqu'un qui me l'a fait pour que je puisse le pardonner. Mais pour revenir tout au début de cette phrase, il y a d'abord ce « pardonne-nous nos offenses ». Avant d'être des offensés, nous sommes des offenseurs. Avant d'être des soi-même touchés par le mal, c'est nous qui commettons le mal. Et je vous propose, pour continuer dans notre réflexion et dans cette première partie de la matinée, de réfléchir un peu sur ce que Dieu fait avec l'offense. Parce que cette parabole est là pour nous dire, inspirez-vous du modèle du Père. Inspirez-vous du modèle du roi, n'est-ce pas? Inspirez-vous de ce que Dieu fait pour vous. Alors, essayons de voir ce que Dieu fait, comment Dieu y fait, comment lui, en tant que offensé, y fait avec notre péché. Dieu, quand il a constaté que l'être humain, il a voulu se séparer de lui et ne pas rentrer dans cette relation d'amour et de dépendance, Dieu, quand il a vu que nous avons préféré nous éloigner, il n'en est pas resté là. Il n'a pas juste constaté le gâchis que nous avons fait. Il n'a pas juste dit, ils font du mal et ils continuent à faire du mal. Dieu a mis en œuvre un plan de salut pour réparer ces ruptures. Son plan, c'est comment être juste tout en nous laissant la vie. Comment être juste tout en décidant de nous sauver? Il n'a pas décidé de passer outre. Il n'a pas décidé de faire comme si de rien n'était. Parce que le péché, l'offense, vraiment crée une dette envers celui qui a été offensé. Et nous avons offensé Dieu. Nous avons contracté une grande dette. Il n'a pas effacé notre dette juste par amour, juste parce qu'il nous aime bien. Il n'a pas dit, oh, j'ai mal, elle est bien gentille, c'est bon. Elle essaye de se rattraper, elle va jusqu'à Nice pour faire des trucs et tout. Elle est bien gentille, allez, je vais lui pardonner un peu. Nous, on peut tomber dans ce piège. Nous, on peut tomber dans le piège d'essayer de faire de notre mieux pour... Et puis après, de se dire au Seigneur, oh, le Seigneur va bien avoir de la considération pour moi parce que je suis une petite fille gentille, vous voyez? Oh! Et puis, regardez, c'est la preuve qu'on a ça en nous tout le temps, c'est les phrases qui nous viennent automatiquement quand on dit, oh, mais il a pas mérité ça. Vous voyez, il arrive, oh, mais lui, le Seigneur va le bénir parce que lui, il est vachement... Il se donne vachement au Seigneur. Et on veut toujours entrer avec Dieu dans cette relation de donnant-donnant. On voudrait que le Seigneur nous bénisse parce qu'on travaille pour lui. On voudrait qu'il nous pardonne parce qu'on est dévoué pour lui. On voudrait que. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Dieu ne dit pas, oh, elle essaye de se rattraper, elle est bien gentille, donc je vais lui pardonner. Il ne minimise pas le mal. Il sait l'orgueil qu'il y a dans mon cœur. Il sait toutes les mauvaises choses qu'il y a dans mon cœur. Oh, je peux vous les cacher, hein, là. Je peux venir avec mon joli sourire et puis faire comme si tout allait bien. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et il sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Alors, il a dû appliquer sa justice. Tout à l'heure, on n'a pas arrêté de dire que le péché est grave. Et vous savez, je peux mesurer la gravité du péché. Il y a quelque chose qui mesure la gravité du péché. Je peux la mesurer à la croix. Elle est là, la croix. À la croix, on voit la gravité du péché. Attention à ne pas prendre trop à la légère la grâce de Dieu. Attention à ne pas trop prendre cela à la légère. Dans 1 Corinthiens 6, il nous est dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Oui, la grâce, elle est gratuite pour moi. Oui, le pardon, il est gratuit pour moi. Mais il n'a pas été gratuit pour Dieu. La grâce a coûté très cher à Dieu. Le péché est tellement grave que le Christ, le Fils de Dieu Saint, celui qui n'a commis aucune faute, a pris toutes nos fautes. Celles que nous avons déjà commises dans nos vies, celles qu'on commet aujourd'hui et celles qu'on va commettre demain. La grâce coûte cher. La grâce a coûté cher à Dieu. Elle lui a coûté la vie de son Fils. Et ce qui est cher à Dieu ne peut pas être bon marché pour moi. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que je n'ai pas le droit de minimiser le mal. Parce que le mal a coûté la vie de Jésus-Christ. À la croix, on voit tellement que le mal, c'est grave. Parce que si le mal n'était pas grave, Christ n'aurait pas eu à mourir sur la croix. Vous voyez? Si le mal n'était pas grave, si l'offense n'était pas grave, Christ n'aurait pas été obligé de mourir sur la croix. On aurait pu dire, effacez ça. Voilà. C'est pour ça que cette question du pardon, elle est importante. Que je peux pas pardonner juste en tournant la page. Oh, c'est rien. Il y en a qui font pire et puis on tourne la page. Dieu n'a pas pu faire ça. Dieu, il a dû donner son Fils unique à la croix. Parce que le péché est grave. Nous avons été rachetés à un grand prix. À la croix, si je mesure la gravité du péché, je mesure aussi autre chose. Je mesure la grandeur de l'amour de Dieu. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Le monde qui est ici présent, le monde qui est dans la rue, le monde qui est à Nice, le monde qui est à Antibes, le monde qui est à Cannes. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé les Niçois. Dieu a tant aimé les Arméniens. Dieu a tant aimé les Valentinois. Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu a tant aimé Gemma Taboyan. Non? Dieu a tant aimé. Et puis il y a les trois petits points là. Dieu a tant aimé. Et je vous invite à mettre votre nom. Dieu a tant aimé Gemma Taboyan qu'il a donné son Fils afin que quiconque, celui qui est très très loin comme celui qui pense être proche, celui qui n'a aucune idée de l'existence de Dieu comme celui qui a grandi dans une église toute sa vie, celui qui est dans le pire des péchés comme celui qui croit être juste et qui croit qu'il n'a pas fait grand chose de très méchant, pour que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse pas. Parce que le péché nous condamne à périr. Parce que le péché nous sépare irrémédiablement de Dieu s'il n'avait pas fait cela, s'il n'avait pas donné son Fils. Parce que cette rupture, cette séparation, cette rupture de relation, elle est bien là. On ne la minimise pas, afin qu'il ne périsse pas. Parce que c'est la suite logique du péché, c'est la suite logique du mal. Qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Et non seulement la vie ici, non seulement une relation retrouvée ici avec notre Père, avec notre Dieu, notre Créateur, mais la vie éternelle. Une vie qui ne s'arrêtera jamais. Une relation qui ne sera plus rompue. Pourquoi? Parce que Dieu a donné son Fils. Dans Jean, quand le récit de la passion démarre, je crois que c'est dans Jean 11, il démarre tout de suite avec ce verset qui dit « À la veille de la Pâque, Jésus aima les siens qui étaient dans ce monde et Jésus a mis le comble à son amour. » Ça, c'est un de mes mots préférés de la Bible. Ce petit mot de rien du tout, le comble. Dieu, il a mis le comble à son amour pour nous. Il est allé jusqu'au bout. C'est de cet amour-là que nous bénéficions, mes sœurs. C'est l'appel à la grâce, c'est un appel à une repentance. L'appel de la grâce de Dieu qui n'est pas à bon marché, c'est une prédication du pardon avec la repentance. C'est la grâce qui nous conduit à entrer dans cette relation de pardon avec Dieu. La grâce, elle a coûté cher à Dieu. elle a coûté la vie de son fils. Ésaïe 53 nous dit ce que Christ a dû faire. Et je voudrais qu'on le lise en pensant à chacune d'entre nous, que chacune puisse voir ses propres maladies. Jésus, il a supporté les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il a subi la souffrance que nous méritions. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Il s'est laissé maltraiter, sans protester, sans rien dire. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent, on l'a arrêté, jugé, supprimé. Mais qui se souciait de son sort? Or, il était éliminé du monde des vivants, il était frappé à mort du fait des crimes de son peuple. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé et il rétablit celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Le serviteur de Dieu qui est de l'Éternel qui est écrit dans Ésaïe, c'est le Christ. C'est le Christ, c'est lui qui fera aboutir le projet de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Dans cette histoire du pardon, on ne peut pas y échapper. Il nous faut reconnaître toujours et toujours que nous sommes avant tout des offenseurs et que nous avons besoin de recevoir le pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. Pour le recevoir, nous avons à reconnaître notre état de pécheur. Nous ne méritons pas le pardon de Dieu. Nous ne méritons que la condamnation. Certes, il nous a aimés alors que nous n'avions même pas idée de son amour. Et il a tout mis en œuvre pour nous pardonner et pour que nous puissions vivre en paix avec lui, réconciliés avec lui, nous avons à dire et à redire. Pardonne-nous nos offenses. Romains 5, Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Nous étions loin de lui, nous n'avions aucune conscience de ce qu'il était en train de faire, de ce qu'il était. Nous étions ennemis de lui, il nous a réconciliés. Il a fait le pont, il a remis le pont qui nous séparait de lui. Alors, on a parlé de feuilles, je vous ai demandé de s'il y a quelque chose qui vous venait à l'esprit, de quelqu'un qui vous a fait de mal, de l'écrire sur une feuille. Dieu, lui, il a écrit aussi nos feuilles à nous. Vous connaissez nos feuilles? Les feuilles de tout notre péché où il a dessus. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de cette feuille qu'il avait? Qu'il avait, je cherche une feuille. Bref, vous savez, qu'est-ce qu'il a fait de... Ah, ben j'en ai. Qu'est-ce qu'il a fait de cette feuille où étaient marquées dessus toutes mes offenses? Et puis, il n'y en avait pas qu'une, il devait y en avoir plusieurs. Qu'est-ce qu'il a fait de mon dossier qu'il avait? Qu'est-ce qu'il en a fait? Colossiens 2 nous le dit. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui était contraire à ses dispositions. Et il l'a fait comment? Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Ce document qui nous accusait, ce document qui nous séparait du Seigneur, Christ l'a supprimé en le clouant à la croix. Alors, comme dans cette parabole, je peux m'approcher de Dieu et de lui dire, « Seigneur, je suis incapable de te rendre ce que je t'ai pris. Je suis incapable de réparer mes fautes. Je suis incapable d'attirer ton amour ou de le mériter. Je ne mérite rien. Je veux juste ta compassion. Je veux juste te dire, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alors le Seigneur, il déchire mon ardoise. Alors Seigneur, il voit ma repentance. Et il voit que je suis en train de lui dire, je ne peux pas réparer, je ne peux pas payer ma faute. Et le Seigneur, il a pitié de moi. Le Seigneur, il me pardonne. Il peut le faire parce qu'il a payé à la place. Il peut le faire avec une façon juste parce qu'il a payé à sa place. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous sommes des pécheurs graciés. C'est ça le centre de notre relation. Ce qui nous unit à Dieu le Père, c'est cela. C'est de reconnaître que nous sommes dans la grâce. Même ce mot, à force de le dire, des fois on n'arrive plus à comprendre ce que ça veut dire. La grâce, c'est que je peux m'approcher de Dieu. Je peux ouvrir mes lèvres desquelles peuvent sortir des mensonges, desquelles peuvent sortir les pires insultes. Je peux l'ouvrir et le dire, mon papa, je t'aime. Et il reçoit cette parole parce qu'il me fait grâce. Il me laisse m'approcher de lui. Si jamais nous ne sommes pas convaincus que le Seigneur a déchiré notre feuille, notre ardoise, il a déchiré tout ce qu'on lui, toutes nos offenses, et qu'il a jeté au fond de la mer, hein, c'est ce que dit Ésaïe aussi, il l'a jeté au fond de la mer, bien bien loin, et il dit qu'il a autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos fautes, qu'il ne viendra pas nous le rappeler. Mais s'il y a quelque chose qui nous vient à l'esprit, on se dit, oh non, ça, le Seigneur ne pourra jamais me le pardonner. Eh bien, ça, c'est l'ennemi qui vient nous culpabiliser. Alors, j'aime bien, moi, les choses symboliques. Aujourd'hui, vous allez vous en souvenir, parce que vous avez pris une journée pour cela, le 22 mars. Eh bien, qu'on puisse dire, non, le 22 mars, je dépose ça devant la croix. Je dis, Seigneur, tu es mort pour ça aussi. Tu es mort pour mes incapacités. Tu es mort sur la croix pour ça aussi. Tu es mort pour toutes les limites. Moi, je dois souvent me rappeler que le Seigneur est mort aussi pour toutes les limites, pour toutes les fois où je ne suis pas un bon pasteur, pour toutes les fois où je ne suis pas la mère que je devrais être, pour toutes les fois où je ne suis pas l'épouse que je devrais être, pour toutes les fois où je ne suis pas la fille que je devrais être, pour toutes les fois où je ne suis pas l'ami fidèle à mes amis qui comptent sur moi ou qui moi aussi je compte sur elles. Pour toutes ces fois, le Seigneur est mort sur la croix et je veux lui remettre. Je veux lui remettre toutes mes limites. Je veux lui remettre tout ce qui m'accable et que j'aimerais pas être comme ça, mais que je suis comme ça. Parce que c'est pas, il est mort pour cela aussi. Je veux pas le garder. Alors, si jamais il y a vos limites qui vous viennent et qui vous envahissent, je voudrais vraiment vous encourager à les déposer devant le Seigneur. Déposons nos fardeaux. Déposons notre péché, tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à vivre et faire tout ce qu'on a envie de faire, hein, à ne pas être la parfaite Gemma que j'aimerais être. Les déposer devant le Seigneur parce que lui, il le sait. Et il est mort sur la croix pour cela aussi. Voilà, on peut prendre un temps de silence devant le Seigneur et puis un temps aussi de prière ensemble autour des tables. À bouger dans l'estomac? Hein? Ah, voilà. Il y a les biscuits sur les tables pour nous faire attendre. Alors, on va se prendre encore un petit moment. Je vous laisserai tout à l'heure un temps aussi de discussion entre vous. Cet après-midi, bien sûr, on va aller un peu plus loin, hein, parce que là, on amorce et vous dites, mais il y a tellement de questions sur est-ce qu'on doit pardonner sans repentance, avec repentance, enfin, toutes ces questions-là, bien sûr, on va les aborder. Et je voudrais qu'on se laisse aussi un petit temps maintenant de discussion. Je vais vous donner quelques petites questions. Mais avant ça, je voulais aller un tout petit peu plus loin pour traiter cette question de la colère. Donc, dans notre parabole, nous avons ce roi qui annule la dette du son serviteur parce qu'il lui a supplié. Et c'est ce qu'on vient de faire au travers de la prière, où on vient de se rappeler comment le Seigneur a supprimé notre dette. C'est ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que ça fait du bien ? Qu'est-ce que ça fait du bien de, de se rappeler tout à nouveau que le Seigneur nous accueille tel que nous sommes, qu'il n'attend pas qu'on répare quoi que ce soit parce qu'il sait d'avance qu'on n'y arrivera pas, et il annule notre dette tout simplement parce qu'il a payé le prix sur la croix. Alors je peux vivre tout simplement comme un pécheur gracié. Je peux vivre dans ma relation libre avec lui. Mais dans ma marche de relation libre avec mon Sauveur, avec mon Seigneur, avec celui qui a donné sa vie pour me pardonner, un jour ou l'autre, je vais rencontrer quelqu'un qui, lui, me doit quelque chose. Et c'est l'histoire de ce serviteur qui, en sortant de chez le roi, il tombe sur son compagnon qui lui doit. « Oh, mais bien sûr, ce qu'il me doit n'est rien à côté de ce que moi je dois au papa. » C'est vrai que ce que ce compagnon devait n'est rien à côté de ce que ce serviteur devait au roi. Et c'est vrai que le mal qu'on me fait n'est pas proportionnel au mal que moi j'ai fait à Dieu, d'accord? Mais en attendant, on me fait mal. Et quand je vais rencontrer quelqu'un qui est devant moi qui m'a fait du mal, ou quand je vais me souvenir de ce mal qu'on m'a fait, il y a quelque chose qui en moi va sortir. Ce serviteur, qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a vu son compagnon qui lui devait 100 deniers? Qu'est-ce qu'il a ressenti, ce sentiment? Là, ça vous arrive de vous mettre en colère? Non, on n'a pas. La colère. Et il y a des colères qui sont là juste parce qu'on est colérique et qu'on ne sait pas se calmer, hein, d'accord? Il y a juste... comme dirait mon père, c'est juste parce qu'on est arménien. Ça, c'est la bonne excuse. Sa bonne excuse à lui. Voilà. On a un tempérament chaud. Il dit, nous, chez nous, on est chaud. On n'est pas mollasson. Et puis, ça lui donnait l'occasion de se mettre en colère. Bon. Moi, je suis un peu comme ça, hein. Je peux me mettre en colère très facilement. Voilà. Il y a cette colère-là qu'on doit maîtriser, n'est-ce pas? On peut pas se mettre en colère pour un oui, pour un non. On sait très bien qu'il faut qu'on se maîtrise notre colère. On voit très bien qu'il faut que cette colère, ce caractère colérique que nous avons, qu'on laisse le Seigneur le maîtriser et que par son esprit, il nous donne le fruit de l'esprit et la maîtrise de soi en fait partie. D'accord? C'est pas de cette colère-là que je parle. Je voudrais parler maintenant d'une autre colère. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une colère légitime qui est de se mettre en colère devant le mal? Réécoutez, allez lire les prophètes. Ce matin, j'étais dans Ésaïe, moi, dans mes lectures. Comment Dieu se met en colère contre son peuple qui fait du mal. Et j'ai envie presque de dire qu'il manquerait plus que le mal ne nous mette pas en colère. Vous voyez, hein, je pèse mes mots, hein, parce que des fois, derrière le mot colère, on met que de... le péché, et là, la Bible condamne, hein, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'une colère qui est de cette intolérance du mal. Oui, je peux être en colère contre le mal. Et je dois être en colère contre le mal. Mais la grande question qui va se poser à nous, et toute cet après-midi, on va essayer de la traiter, c'est qu'est-ce que je fais de cette colère? Comment je gère cette colère? Et comme je reprends la même méthode que tout à l'heure, je voudrais juste enlever les quelques mauvaises réactions, mauvaise gestion de la colère. Des fois, nous sommes submergés par une colère excessive du mal qu'on nous a fait, qui se transforme en haine, en violence, en vengeance. Or, ça devient de la haine. Ça, c'est une mauvaise façon de gérer la colère, de la laisser se transformer en haine. Une autre mauvaise façon de la gérer, c'est de la reporter sur nous. Au lieu de reconnaître que nous sommes victimes et d'être en colère, nous ressentons de la culpabilité, de la honte et nous nous détruisons nous-mêmes. Voilà, on n'arrive pas à reconnaître qu'on est en colère et il y a quelque chose qui ne va pas, mais ça ne sort pas en colère. Ça se transforme en culpabilité. C'est un peu ce qui a été dit, hein, tout à l'heure. Vous avez eu des cas comme ça? Vous voyez ce que je veux dire? On se culpabilise. C'est parfois, par exemple, le cas d'enfants maltraités ou d'enfants battus. Vous voyez? C'est normal que je sois battue. J'ai fait quelque chose de mal. Et on se culpabilise. Oui, mais, Je savais qu'il fallait pas que je laisse traîner mon assiette. Voilà, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. J'ai dû suivre le cas d'une maman avec sa fille, hein, Et la fille qui se culpabilise parce que elle a fait tomber quelques miettes par terre, et puis la maman, elle a des problèmes de violence qu'il faut qu'elle gère, hein, donc ça, c'était d'un autre ordre. Et puis elle a reçu la violence de sa mère en pleine figure. Et cette fille, quand elle parle de ça, elle dit, oui, mais pourtant, je sais que les miettes font mal réagir ma mère. Oh là là, mais c'est de ma faute, hein, c'est de ma faute. J'aurais dû faire attention et ne pas faire tomber les miettes de mon gâteau de goûter. Et j'étais en face de cette fille qui se flagellait parce que elle a laissé tomber quelques miettes du gâteau qu'elle a pris au goûter. Elle a fait quelque chose de terrible. Et elle se disait, c'est de ma faute si maman s'est mise en colère. Et j'essayais de lui dire, mais elle est où la faute là? Ce qui est du ressort de la maman, elle doit pas accepter, enfin, que cette petite essayait de lui dire que c'est pas de sa faute, que c'est pas les miettes qui peuvent justifier une colère excessive et que faut dénoncer ce mal-là. Vous voyez ce que je veux dire? Cette culpabilité. Et puis, il y a beaucoup de honte qui sont attachées à tout ça, etc. On se culpabilise. Une autre façon négative de gérer la colère, eh bien, comme on se dit que la colère c'est négatif, c'est du péché, etc., on la refoule, et puis cette colère elle est pourtant là, au lieu de la manifester contre l'offenseur, au lieu de dire ce qui serait juste, hein, de dire non, c'est pas normal que tu me fasses cela, je refuse, je n'accepte pas, eh bien nous la détournons contre nous. On se punit, donc la première fois c'est on se culpabilise, et là c'est pire, on tourne cette colère contre nous. Et ça donne aussi des maladies psychosomatiques, etc. Une des premières personnes que j'ai suivie dans mon ministère, c'est une dame qui était maltraitée par son mari. Et comme elle était maltraitée par son mari, elle était persuadée que c'était de sa faute, donc il y avait beaucoup de culpabilité. Et puis après, ça a tourné en cette colère qu'elle avait, qu'elle n'arrivait pas à exprimer contre son mari, et bien elle l'exprimait contre elle. Et elle se faisait du mal. Et ça, vous la voyez, elle s'arrachait des cheveux, elle se faisait de la violence, cette violence, elle l'a tournée contre elle, et elle s'est retrouvée dans un asile psychiatrique. Hein. C'était terrible. Hein. Elle était là. Le Seigneur nous montre plein de textes dans la Bible où la colère des personnes sont exprimées. La colère, c'est une fonction d'alarme. Elle nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La juste colère, hein, je ne parle pas de l'état colérique, hein, vous m'avez comprise. C'est une réaction qui est saine. C'est une réaction qui dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et David, il a beaucoup exprimé sa colère. Quand on lit les psaumes, on peut être étonné de voir toutes ces expressions de colère que David avait. Et d'ailleurs, nous, les bons petits évangéliques, on a du mal avec ces textes-là, on les saute des fois, vous avez remarqué? On les saute tout de suite. Je vous donne des choses toutes simples. Hein. Dans le psaume 55, il y a plein d'expressions de la colère. Où il va même plus loin, il souhaite même que Dieu fasse justice, et il dit des choses du genre, car ce n'est pas ennemi qui m'outrage, ce n'est pas celui qui me déteste qui s'élève, je pourrais me cacher de lui, c'est toi un homme comme moi, mon intime, toi qui me connais bien, c'est toi qui m'outrage. Ensemble, nous connaissions la douceur des secrets partagés, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne et qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car le mal les habite, il est en leur sein. Vous voyez, il va fort, hein. Un peu plus loin il y a beaucoup, beaucoup de textes comme ça. Le fameux psaume 139 que nous aimons tant, n'est-ce pas? Nous l'aimons et puis nous lisons le début. Et puis, il y a juste deux petits versets qui nous embêtent et on les saute. Ça vous arrive? j'ai vécu ça en réunion de prière, il n'y a pas si longtemps que ça. On a lu le psaume 139, on était super, wow, c'est génial, je suis une créature merveilleuse, le Seigneur me connaissait, il me tissait quand j'étais dans le ventre de ma mère, etc. Et puis celui qui le lisait, il s'arrête et puis il conclut, examine au fond de mon cœur, Seigneur, et connais mon cœur, sonde moi et connais mon cœur, regarde. Et puis je disais, mais t'as sauté les versets 21 et 22, il dit oui, mais parce que ils sont un peu bizarres ces versets. Et ces versets disent, Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste complètement, je les hais. Ils sont pour moi des ennemis. Waouh! David qui exprime sa colère devant Dieu, il l'exprime. Oui, cette colère-là, il faut qu'elle sorte et il l'exprime. Mais attention, attention, je ne peux pas l'exprimer n'importe comment. Je ne peux pas la laisser m'envahir au point où quand je rencontre mon compagnon contre qui je suis en colère, entre le fait d'entrer en colère et le fait de se jeter sur lui pour l'étrangler, c'est là qu'il y a un pas. Genèse chapitre 4 verset 6, Dieu il nous avertit, dès les premières colères exprimées, dès les premières frustrations entre deux frères, entre Caïn et Abel, Caïn il est en colère et Dieu dans le verset 6, l'avertit. Il lui dit, chapitre 4, verset 6, Genèse 4, 6. Dieu avertit Caïn, et le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Vous savez, c'est l'histoire où Dieu, il agrée l'offrande d'Abel et pas celui de Caïn, et Caïn, il est jaloux. Voilà. Et cette jalousie-là, au lieu de la traiter, au lieu de la prendre en compte, il se fâche et il se met en colère, même pas contre Dieu, mais contre son frère. Et Dieu lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapis à ta porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. À quoi bon te fâcher? Tu peux te fâcher. Mais qu'est-ce que tu vas faire de cette colère? Est-ce que tu vas le laisser te dominer? Est-ce que tu vas laisser la colère, la douleur de cette offense te dominer? Ou est-ce que c'est toi qui vas le dominer? Qu'est-ce qu'on va faire de cette colère qui est en nous? Et ce sera le sujet de toute l'après-midi. Et puisqu'on a une petite demi-heure, je voudrais vraiment vous laisser discuter entre vous et vous poser la question suivante. Deux questions. Pourquoi vous est-il si difficile de pardonner? Donc, voyez, je pars du principe que c'est difficile de pardonner. Et puis, quelles sont vos attentes dans ces situations? Pourquoi c'est difficile de pardonner? Et quelles sont nos attentes quand quelqu'un nous fait du mal? Je vous laisse partager autour des tables. Alors, peut-être que vous avez envie de vous retrouver un peu ailleurs, c'est possible, hein, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit. Si vous vous sentez, voilà, si vous vous êtes à l'aise là comme vous êtes assise, c'est bien, mais si vous avez envie de bouger, signalez-le nous et puis on vous montrera des lieux pour aller. J'ai bien, c'était ça? Et puis, voilà, pourquoi c'est difficile de pardonner et quand dans ces situations d'offense, quelles sont nos attentes? Alors, il y a une question, on va juste l'écouter bien fort. Quelles sont nos attentes? C'est-à-dire, dans cette situation d'offense, quelqu'un m'a fait du mal, et c'est difficile de pardonner, etc., mais qu'est-ce que j'ai comme attente? Qu'il comprenne pas, enfin voilà, est-ce que j'en ai aucune? Et c'est possible, hein, que j'ai aucune attente. Mais qu'est-ce qui me manque pour pardonner? Tu voyais cette histoire-là que j'attends. Quelles sont mes attentes, mes besoins dans cette situation? Qu'est-ce qu'on fait de nos douleurs? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces douleurs qui se rajoutent? Et puis voilà. On ne choisit pas d'être offensé, ça c'est sûr. Mais on choisit de savoir ce qu'on fait de notre douleur. Et c'est ce qu'on va essayer de voir, cet après-midi. On a beaucoup parlé de l'offense ce matin, on a beaucoup parlé de tout cet engrenage. Et puis le mime, là, était très, très parlant, qui nous montre l'engrenage de cette douleur, ce qu'elle peut provoquer. Et cet après-midi, essayons de voir ce qu'on peut en faire. Qu'est-ce qui nous permet de couper la corde? En gros, c'est ça. Pourquoi on va couper cette corde? Qu'est-ce qui nous donne la force de couper cette corde? Alors ce matin, on a lu une parabole et cet après-midi, je vous propose de lire un texte dans le premier livre de Samuel au chapitre 24. On va essayer de voir un exemple bien concret et puis pouvoir s'en inspirer et d'en tirer quelques leçons ou quelques exemples qu'on pourrait suivre nous aussi. 1 Samuel chapitre 24, voilà, le texte est affiché à partir du verset 1. C'est l'histoire de Saül et David. Donc, pour situer un peu l'histoire, il y a David qui gagne contre le grand Goliath, Saül est roi, et puis David qui commence à travailler avec Saül, et puis petit à petit, Saül devient jaloux, et il veut poursuivre David. David, qui est un roi, il est obligé de s'enfuir, et le voilà qui fuit pendant des années la colère de Saül. Et Saül, il a une haine tellement forte contre David qu'il le poursuit de village en village pour atteindre la vie de David. Voilà un peu très caricaturalement le tableau. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, parce que de temps en temps, Saül, il avait du boulot, il fallait qu'il aille défendre son pays et il allait à la guerre, donc c'était les Philistins là. Donc quand il a fini cette guerre, on lui dit, David est dans le désert d'Ein Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et alla chercher David. 3000 hommes, hein? 3000 hommes, et il alla chercher David et ses hommes jusque du côté des rochers des Bouctins. Il arriva vers des parcs à petit bétail qui étaient près de chemin. Il y avait là une grotte. Saül y entra pour satisfaire un besoin naturel. C'est ce qui est marqué aussi là, hein? C'est la même, voilà. Dans les anciennes versions, c'est marqué pour se couvrir les pieds. Parce que l'hébreu, c'est une langue très pudique et on pourrait pas le dire que c'était pour ça. Donc, vous imaginez avec sa longue robe, donc vous imaginez dans quelle position il était, où la robe se couvrait ses pieds. C'était juste parce qu'il voulait satisfaire un besoin naturel. Donc, dans nos nouvelles traductions, on sort ça. C'est la NBS, hein, celle que je vous lis. David et ses hommes étaient assis au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, il est arrivé. Le jour à propos duquel le Seigneur t'a dit, c'est moi qui te livre ton ennemi. Traite-le comme il te plaira. David coupa furtivement le pan du manteau de Saül. Après cela, David sentit battre son cœur parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes, jamais. Que le Seigneur me garde de commettre une telle action, de porter la main sur mon Seigneur, sur l'homme qui a reçu l'onction du Seigneur, car c'est lui qui a reçu l'onction du Seigneur. Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha d'attaquer Saül. Saül sortit de la grotte et continua son chemin. Après cela, David sortit de la grotte, il se mit alors à crier derrière Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina face contre terre prosterné. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu tes propos des gens qui te disent, « David cherche à te faire du mal ?» Tu le vois, en ce jour de tes propres yeux, aujourd'hui le Seigneur t'avait livré à moi dans la grotte. On m'a dit de te tuer, mais je t'ai épargné, en disant, « Je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car c'est lui qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde donc le pan de ton manteau qui est dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, tu vois bien qu'il n'y a chez moi ni mauvaise intention ni révolte, et que je n'ai pas péché contre toi. Et toi, tu pourchasses ma vie pour me la prendre? Le Seigneur sera juge entre toi et moi. Le Seigneur me vengera de toi, mais ma main ne sera pas contre toi. Comme dit la vieille maxime, c'est des méchants que sort la méchanceté. Aussi ma main ne sera-t-elle pas contre toi? Contre qui le roi d'Israël est-il parti en guerre? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une simple puce? Le Seigneur rendra la justice. Il sera juge entre toi et moi. Il regardera. Il défendra ma cause. Il jugera en me délivrant de ta main. Lorsque David eut achevé de dire cela à Saül, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül se mit à sangloter. Puis il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, alors que moi, je t'ai fait du mal. » On va s'arrêter là, la lecture. Je vous ai préparé une petite animation comme pour les enfants. Donc, comme je l'ai dit, j'ai eu un ministère pendant 20 ans avec les enfants, donc j'aime bien ces petites animations. Voilà deux hommes. On va le voir, David et Saül, qui sont face à face. Ça arrive, oui. Voilà Saül et voilà David. Saül, il est rempli de jalousie. Et c'est comme une flèche qu'il prend et qu'il lance contre David. Vous avez reçu peut-être des flèches de jalousie dans vos vies. Des flèches qui nous atteignent en plein cœur. La jalousie qui nous fait du mal, la jalousie de l'autre, alors qu'on n'y est pas forcément pour quelque chose. Et puis, Saül est rempli de colère contre David. En voilà une autre de flèche. Et David reçoit la colère de Saül sur lui. Et il a reçu des flèches pour de bon, hein, pour de vrai, hein, il l'a reçu. Et puis, la colère de Saül qui s'abat sur lui, et comme si la colère n'était pas suffisante, voilà que Saül envoie encore une autre flèche, c'est la haine. Il a une haine contre David. Et puis, on peut rajouter des flèches. Cette haine va jusqu'à avoir envie de tuer David. Je ne sais pas quelles sont les flèches que vous avez reçues ou qui sont lancées contre vous. Ce matin, je vous ai demandé d'en écrire. Voilà, mais peut-être qu'il y en a qui vous viennent à l'esprit. Des flèches de médisance, des flèches de trahison, comme ça a été dit tout à l'heure. Des flèches différentes sortes de flèches. Et puis, l'offenseur, il lance les flèches, et puis qui est là, et puis on est tellement fragile face à ces flèches. On est vulnérable. Et puis, il se présente une occasion où David est en fuite. David est en train de fuir toutes ces flèches qui vont l'atteindre. Et voilà une situation bien cocasse, hein, vous le voyez bien. Il est en train de se cacher au fond d'une grotte avec ses hommes et il voit arriver juste devant lui, juste à l'entrée de la grotte, son ennemi, son grand ennemi juré qui lui, il est avec 3 000 hommes, toute une armée, qui sont là, beaucoup plus nombreux que là où on est à Melouse, hein, on était 1 500, 2 000, je sais plus. Vous imaginez toute cette foule-là qui sont à l'entrée de la grotte et ils attendent. Ils attendent que Saül ait fini de faire ce qu'il a à faire, mais ils ont une intention bien spéciale, c'est d'aller trouver David pour en finir avec lui. Vous imaginez toute cette haine? David, il est là au fond de la grotte et il voit Saül arriver. Il y aura toujours devant nous. Est-ce que j'exagère en disant toujours? Peut-être, mais peut-être pas. Nous aurons devant nous une occasion pour rendre la monnaie de la pièce. Nous aurons peut-être devant nous une occasion de nous venger de tout le mal qu'on a subi. Nous aurons peut-être devant nous une occasion de réagir à tout ce mal qu'on reçoit. C'est naturel, c'est humain, le côté pécheur de l'homme voudrait de rendre le mal pour le mal qu'on a reçu. Vous savez, quand quelqu'un m'attaque, quand quelqu'un te frappe, je suis capable de frapper moi aussi. Je veux dire, la haine, la colère, la jalousie, la trahison, ce n'est pas que l'offenseur qui est capable de le faire. Moi aussi, je peux le faire, non? Vous souvenez de l'histoire, je vous ai dit ce matin, quand il m'est arrivé un gros bobo, eh bien, ce que j'ai découvert, c'est ma capacité à rendre le mal. J'ai découvert en moi que j'étais capable de casser la figure de quelqu'un, voyez. J'avais cette envie-là. J'avais ce potentiel en moi d'aller et puis de fracasser quelqu'un parce qu'il m'a fait mal. Il a fait mal aux personnes qui me sont chères. Toucher un enfant, l'enfant d'une maman, on parlait de maman tout à l'heure. Toucher un enfant, que quelqu'un touche à mon enfant, mais je suis capable d'être comme une lionne, hein, comme une ours là qui défend ses petits. On est capable de rendre le mal, non? Pourquoi je vous le dis? Juste pour qu'on en prenne conscience. Qu'on prenne conscience que le mal est contagieux. Que le mal qu'on a subi nous contamine. Et que naturellement, en étant contaminé par ce mal, on veut rendre mal pour mal, dent pour dent, œil pour œil. Et puis on peut même faire deux yeux pour un œil, hein. On peut même aller un peu plus loin. On peut même cogner un peu plus fort que ce qu'au des coups qu'on a reçus. On en est capable. On en est capable. Alors, quand l'occasion se présente, quand, comme Saül qui est juste là à l'entrée de la grotte, quand celui qui m'a fait du mal est là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me souviens du mal qu'il m'a fait? Puis des fois, c'est nous les femmes, on est capable d'être beaucoup plus subtiles que ça, hein. On est capable de glisser un petit mot. Alors, non mais c'est vrai, hein. Je pense à des conversations où vous savez, tout en essayant de montrer qu'on est juste, on est capable de, je sais pas moi, des trucs du style. Ah, le Seigneur m'a donné vraiment la force de pardonner parce qu'il y avait vraiment de quoi, hein. Et puis on en profite et hop, pour glisser, pour raconter tout le mal qu'on a fait, juste pour dire après qu'on a pardonné. Mais en attendant, on a dit tout le mal qu'il nous a fait pour que tout le monde l'entende bien et que tout le monde le sache bien. Vous voyez, ce genre de choses dans l'église. Mais on est capable de le faire même en priant, hein. Dans les prières. On s'adresse à Dieu, mais en s'adressant à Dieu, comme on sait que les autres écoutent, alors on est capable d'éclaircir des situations pour que tout le monde soit bien au courant, hein, de tout. Ça, c'est une capacité que les femmes ont beaucoup plus que les hommes. On est capable de ne pas oublier et de prendre le soin de le rappeler. On est capable de se venger par des petits mots glissés par-ci, par-là. « Ah, oh, tu sais, un tel, qu'est-ce que t'en penses ?» Ah oui, non, mais, un tel. Tu sais, bon, je peux pas tout dire, hein, je peux pas tout te raconter, mais je préfère pas tout te raconter d'ailleurs, parce qu'il vaut mieux que, tu le découvres par toi-même, mais, et ça suffit de mettre la suspicion et de casser l'autre. Hein? C'est très subtil, c'est des petites choses, c'est des petites vengeances pour les piques qu'on a reçues. On lance une petite vengeance par-ci, par-là. On les lance. Des petites fléchettes. On manie peut-être pas la grosse flèche comme ça, mais des petites fléchettes qu'on lance. On aura toujours l'occasion de faire souffrir celui qui nous a fait du mal. Vous êtes d'accord avec moi? Cette occasion se présentera, ou elle s'est déjà présentée peut-être devant toi, de faire souffrir celui qui t'a fait du mal. Alors j'ai un choix. Qu'est-ce que je fais? David avait un choix. Et ces hommes, ils lui ont donné un conseil tout à fait entendable. Ils lui ont même dit que c'est Dieu qui avait provoqué cette situation. Il dit, tu vois, Dieu t'a dit qu'il allait te livrer ton ennemi. Et ben voilà, c'est fait. C'est le temps de Dieu. Vas-y, prends ton arme et puis vas-y, venge-toi. Dieu te donne une occasion en or. Et on peut même confondre, spiritualiser les choses et tourner les choses comme si c'était Dieu qui nous encourageait à faire le mal. Voyez, David, il prend une position qui est moi qui me laisse sans voix. Je sais pas comment prendre. Ça fait des années qu'il erre, le gars. Ça fait des années qu'il va de ville en ville alors qu'il aurait pu être dans un palais. Il a rien fait de mal. Et là, il avait une occasion pour avoir la paix, pour se donner la paix, pour se faire justice. Il décide de ne pas rendre le mal, de ne pas rendre au mal le mal. Il a décidé de ne pas se laisser envahir, contaminé par le mal. Il a décidé de ne pas se nourrir du mal. Il a décidé de casser la chaîne du mal subi, mal rendu. Ça, c'est un premier pas déjà vers le pardon. Un premier pas, c'est de casser cette chaîne-là. Mais David, il va même plus loin. David, il aurait pu rester passif au fond de sa grotte et attendre que le roi s'en aille. Non ? Il a décidé de ne pas rendre le mal, mais il aurait pu aussi rester passif. Il aurait pu rester à dire, bon, ben, j'attends, il s'en va, et dès qu'il s'en va, eh ben, je me lèverai. Non. David, il choisit la voie de l'amour. Il, avec son histoire de couper le manteau, c'était juste pour avoir une preuve à montrer à Saül que si sa lance était assez proche pour couper le bout de son manteau, elle était assez proche pour qu'il l'enfonce, hein. Voilà, c'était juste une preuve. David, il garde son respect envers celui qui lui veut du mal. Il lui parle avec respect. Il lui dit, mon Seigneur, mon roi. David, il explique au roi que son entourage ne dit pas toujours la vérité. Il lui dit, mais ne te laisse pas influencer négativement. Et il exprime en même temps, il dit au verset 12, il dit, voilà ce que j'ai fait, mais j'ai chez moi ni mauvaise intention, ni révolte. Et il dit à Saül quelle est sa faute. Pourquoi tu pourchasses ma vie pour me la prendre? Il lui dit, voilà ton erreur, tu es en train de me poursuivre pour prendre ma vie. Voilà ta faute. Il lui exprime quelque part sa colère, il le lui dit. Mais il le dit avec amour, avec une attitude justement de pardon. Et on va voir un peu dans plus de détails ce que ça veut lui dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que David fait ça? Pourquoi David emploie toute son énergie à en rendre le mien alors qu'il a subi le mal? Pourquoi il emploie toute cette énergie pour couvrir la méchanceté du roi par des gestes et des paroles d'amour? Pourquoi moi il fait pour dire stop, stop au mal? Pourquoi il agit ainsi? Parce que David, il aime le Seigneur. David, il aime Dieu. Alors David, il va construire quelque chose entre lui et toutes ses flèches. D'abord, il se met derrière Dieu. Il dit à partir du verset 11, on le voit ça. Il dit, tu vends ce jour de tes propres yeux. Aujourd'hui, le Seigneur t'a livré entre mes mains. Le Seigneur est entre toi et moi. Il y a Dieu entre toi et moi. Et il va un peu plus loin et il dit à David, il dit d'abord à ses hommes et il le dit aussi après à Saül que Dieu a choisi David comme a choisi Saül comme roi et que Dieu est celui du coup qui dirige, qui a toute autorité même sur son ennemi, même sur Saül. C'est pour ça qu'il ne l'a pas touché. Il lui dit que le Seigneur me garde de commettre une telle action, de porter la main sur mon Seigneur qui a reçu l'onction de Dieu. Il affirme par là que celui qui lui fait du mal, il est aussi sous l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui dirige sa vie. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. Il reconnaît que il accepte de regarder Saül non pas avec son regard à lui, mais avec le regard de Dieu. L'autre aussi est une créature de Dieu. L'autre aussi est peut-être enfant de Dieu quand l'offense vient d'un chrétien. L'autre, en tout cas, est sous l'autorité de Dieu. Dieu voit ma souffrance, Dieu voit l'injustice et ses conséquences, mais c'est Dieu qui est arbitre. C'est Dieu qui est arbitre entre lui et moi. Quelle est la volonté de Dieu envers celui qui me veut du mal? Vous êtes posé cette question? Que veut Dieu pour tous ceux qui m'ont offensé? Que veut Dieu pour Saül? On a parlé beaucoup d'offenses et d'offensés. À votre avis, quel est le projet de Dieu, la volonté de Dieu pour tous ceux qui vous ont fait du mal? Dieu ne veut pas que le pécheur meure. et veut qu'il se repente et qu'il revienne de sa conduite. Dieu veut sa repentance. Dieu veut pardonner à celui qui m'a offensé. Il ne veut pas que le pécheur meure. Dieu veut sauver mon ennemi. Dieu veut lui révéler la grâce. Dieu veut révéler la grâce, sa grâce, même à celui qui m'a fait du mal. On accepte facilement la grâce de Dieu pour nous et la grâce de Dieu pour notre ennemi. Est-ce qu'elle est différente? Est-ce qu'elle est moindre? Dieu veut manifester sa grâce à celui qui m'a offensé. Alors il me demande de le regarder avec le regard de Dieu, de le regarder au travers du regard de Dieu. Alors David dit, voilà, je mets Dieu. Dieu, c'est lui qui dirige. C'est lui qui dirige toute chose. Et puis il va plus loin. Au verset 13, il dit, le Seigneur sera juge entre toi et moi. C'est Dieu qui va juger. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait un juge? Un juge, c'est quelqu'un qui dit, toi t'as tort, toi t'as raison. Non? C'est celui qui évalue. Quand on va devant le juge, c'est pour défendre notre droit, notre cause, pour que quelqu'un autre que moi, je peux vous dire, un tel, il m'a fait du mal, un tel m'a volé. Mais quand c'est le juge qui a toute autorité, qui lui dise à l'autre, non, tu, elle a raison, c'est toi qui as tort, il me rend justice. Le juge, c'est celui qui fait justice. David, il dit à Saül, c'est Dieu qui va me faire justice. Parce que Dieu est le seul juge qui soit juste. C'est celui qui va dénoncer le mal. C'est celui qui va le révéler. C'est celui qui va le condamner. Je n'ai pas à prendre la place de Dieu. Quand on me fait du mal, j'ai tellement envie de me faire justice moi-même. Et quand je le fais, je prends la place de Dieu. C'est Dieu seul qui est le juste juge. Et le cheminement du pardon, c'est tout ça, hein. Vous avez vu que ça se fait pas en un jour, hein. Et tout ce que je raconte, peut-être que ça va prendre 2 minutes, ou peut-être 2 mois, ou peut-être 2 ans, j'en sais rien. Mais chacune, on est dans notre cheminement. Et cheminer, c'est accepter que celui qui va être le juge, c'est Dieu. Mais je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que Dieu, il exerce sa justice. C'est pas juste des mots en l'air, hein. C'est pas juste, bon, bah, il fera justice dans l'éternité. Non, 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 non. Il n'est pas au chômage, hein. Il n'est pas parti en vacances. Vraiment, sur cette terre, il me fait justice. Dieu, il ne laisse pas le mal impuni. Dieu ne laisse pas le mal s'empirer. S'il avait laissé, notre monde ne pourrait plus résister maintenant. C'est Dieu qui me fait justice et il va le faire. David, il compte beaucoup plus sur la justice de Dieu que sur sa propre justice. Pardonner, c'est compter sur la justice de Dieu. Ce n'est pas faire fi et ne plus demander justice, hein. Ce n'est pas allez, je regarde plus et je renonce à ma justice. C'est pas renoncer à la justice, c'est renoncer à faire justice par nous-mêmes. Pardonner, c'est accepter que c'est Dieu qui va me faire justice. Verset 13, toujours, il va plus loin. Il dit, le Seigneur sera juge entre toi et moi. Et il va plus loin, il dit, le Seigneur me vengera de toi. C'est bizarre ça, hein, non? Vous allez me dire, oh, ça c'est l'Ancien Testament, et dans l'Ancien Testament, il y a des trucs un peu bizarres. Mais même le Nouveau Testament en parle, hein. Dans Romains 12, il est dit que c'est Dieu qui venge. Alors ça veut dire quoi? Alors on a un problème avec cette histoire de vengeance parce qu'on le regarde à l'échelle humaine. Et l'échelle humaine, un petit qui veut se venger, ben il donne un coup encore plus fort. Vous voyez ce genre de choses. Et on va plus loin. Se venger, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste rendre ce qu'on m'a pris. Vous voyez? C'est pas prendre plus. Ça c'est le vengeance humaine, c'est ça. On m'a pris 10 euros, j'en prends 20. Je me suis vengé. Non. Il y a le juge, c'est celui qui dit, attention, tu n'as pas le droit de prendre 10 euros, mais il y a une réparation. La réparation, c'est ce mot vengeance, c'est ça. c'est « Dieu me rend ce qu'on m'a pris ». Si on compte sur celui qui m'a offensé de me rendre ce qui m'a pris, je peux attendre longtemps. Mes amis, cheminer avec le pardon, c'est s'attendre à ce que ce soit Dieu qui me le rende. Ne pas s'attendre à ce que celui qui m'a fait du mal répare ce qu'il a fait, parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'en est pas capable. Est-ce que nous, on est capable de réparer le mal qu'on fait? Est-ce que nous, on est capable de réparer le mal qu'on a fait envers Dieu et de réparer le mal qu'on fait envers les autres? Nous aussi, on en est incapable. Lui, il est incapable. Mais ça ne veut pas dire renoncer, dire « bah tant pis, j'ai perdu 10 euros, il m'a volé 10 euros, tant pis ». Non, ça veut dire compter sur Dieu. C'est Dieu qui va me rendre ce qu'on m'a pris. Et Dieu l'a fait avec David. Il lui a donné un règne qui est inégal, qui n'a rien à voir avec le règne de Saül, non? Les années de règne que Saül a volé à David, eh bien, ça n'a pas manqué dans le règne de David, parce que Dieu a béni le règne de David. Dieu en a fait un roi dont on parle jusqu'à maintenant, parce que c'était un homme qui avait un cœur selon Dieu. Mes amis, tout ce qu'on vous a pris, Dieu le voit, et Dieu va nous le rendre. Et personnellement, j'ai compris que, d'une façon tout à fait intéressée, qu'il vaut mieux que je m'attende à Dieu, parce que il rend avec abondance. Il rend avec abondance. Quand il bénit, sa bénédiction n'a pas de limite. Tout à l'heure, je vous ai demandé de quelles étaient vos attentes. Vous voyez ces histoires-là? Mais Dieu, il va au-delà de mes attentes. Moi, je m'attends à qu'on reconnaisse qu'on m'a fait du mal. Et moi, je m'attends à ce qu'on répare un tout petit peu le mal qu'on m'a fait. Mais Dieu, il juge. Non seulement c'est de la reconnaissance, il reconnaît, il fait prendre conscience, mais il condamne le mal qu'on m'a fait. Et Dieu est celui qui me venge, qui me rend tout ce qu'on m'a volé, qui me rend tout ce qu'on m'a pris, qui me rend toute la joie qu'on m'a enlevée, qui me rend la paix qu'on m'a ôtée, qui me rend tout ce qui m'a manqué. Il me le rend d'une autre manière, ça c'est sûr. Ce ne sera pas de la même façon, mais c'est celui qui me rend. Et enfin, le dernier petit bout du bouclier, verset 10, David dit que c'est Dieu qui va le protéger. Il dit qu'il veut se placer derrière la protection de Dieu. Il n'a pas à s'en soucier, il n'a pas essayé d'arriver par lui-même en éliminant celui qui le menace. Il dit, le verset 16, il dit, c'est le Seigneur qui défendra ma cause. C'est lui qui va me protéger. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui et surtout plus fort que son ennemi. C'est le Dieu Tout-Puissant et c'est lui qui va me protéger. En disant ça, ça me rappelle l'histoire que ma petite fille m'a racontée. Donc ma petite fille qui a 8 ans maintenant, elle est juste en CE2 et elle était encore à la maternelle. Elle était en grande section maternelle, donc il y a 2 ans de ça. Donc ma fille qui a donc 5 ans et son frère 9 ans de plus, ça fait 14 ans. Donc vous voyez un peu, voilà. Donc son frère était au collège et elle était à la maternelle. Et puis un jour, elle rentre à la maison et elle nous raconte qu'elle a une copine qui l'embête. Je ne me rappelle plus son prénom. Elle l'embête, elle lui tire les cheveux, nanana, et puis il y a des disputes, etc. Donc on gère les histoires de disputes entre deux filles de maternelle. Vous connaissez ça? Si, c'est pas pour nos filles, mais nous avons été en maternelle aussi, on s'est disputé pas mal, voilà, les trucs de filles, quoi. Et puis elle me dit qu'elle a peur de sa copine. Je lui dis, mais ah bon, mais pourquoi t'as peur de ta copine? Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben parce que cette fille, elle l'a menacée de plein de choses, et puis jusqu'à maintenant, elle n'avait pas trop peur, et là, elle commence à avoir de plus en plus peur à la menacer. Et puis il y avait donc Mathias, le garçon, l'ado de 14 ans, lui dit, mais Anaïs, mais pourquoi t'as peur de ta copine? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle peut te faire? Elle dit, ben, pendant la récréation, on était dans la cour, et il y a son frère qui est venu juste derrière le grillage, et son frère, il est grand. Ah bon? Mais il a quel âge? Mais son frère, il est à l'école primaire. Et alors? Elle dit, ben, son frère, il est venu et il m'a dit, attention, hein, tu embêtes pas ma sœur, et si tu l'embêtes, moi, je t'attrape à la sortie de l'école. Alors, mon fils Mathias, ça l'a énervé, ça l'a mis en colère. Il l'a regardé, lui dit, « Eh ben toi, tu dirais à ta copine que toi, ton frère, il est encore plus grand que son frère à lui, à elle. » Et que si lui, il ose t'embêter, eh ben c'est ton frère de collège qui viendra te défendre. Et moi, je t'ai plié de rire. Et, mais c'est un peu ça, quoi. Hein. Anaïs, elle avait un frère encore plus grand que le grand frère de sa copine qui lui faisait peur. Nous avons un Dieu encore plus grand que toutes les personnes qui sont grandes et plus fortes que nous et qui nous feraient peur. Non? On a un Dieu qui est beaucoup plus grand. David, ce petit David, David qui avait pas une famille géniale, dans le sens où c'était une petite ville, un petit clan, etc. David qui était le plus jeune de sa famille, c'était même pas l'aîné, c'était même pas un grand costaud, un gaillard, il était juste bon à aller garder les petits troupeaux dans la prairie. C'était quelqu'un qui passait son temps à chanter. Ça fait pas vraiment le roi bien fort et bien costaud, hein. Il passait pas son temps à faire la bagarre et à s'exercer. Il était là avec sa petite guitare et puis il chantait des chants. Bon, c'est vrai que 2000 ans après, et même 3000 ans après, on chante toujours les chants qu'il a écrits. Ça, c'est sûr. Mais à l'époque, il le savait pas. Et il payait pas de mine, quoi, ce garçon. Mais il savait que devant Saül, et devant les 3000 hommes qui sont derrière lui, qu'il avait un Dieu beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que les 3000 hommes qui le poursuivaient. Quelle que soit la menace qu'il y a sur vous, quelle que soit la force de l'offenseur. Tout à l'heure, avec quelques-unes, on a parlé des personnes qui pourraient nous faire peur, hein, qu'on croise des fois dans la rue. Quelle que soit la force de l'offenseur, quelle que soit sa puissance, quelle que soit des fois même, et là, j'ouvre une toute petite parenthèse, c'est juste des cas très particuliers, on peut y avoir même des forces occultes, hein, qui viennent nous menacer. Voilà, c'est juste une petite parenthèse pour dire que tout n'est pas ça, mais il peut y en avoir. Des forces qui nous dépassent, hein, qui peuvent nous offenser. Qu'est-ce que je fais de cette douleur? Je décide que c'est le Seigneur qui va me protéger. Parce que mon Seigneur, il est grand, il est fort, il est puissant. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est comparable à sa force. Ma force, elle n'est pas en moi. Ma force n'est pas dans mes biceps ou dans mon intelligence ou dans ce que je peux faire. Ma force, elle est dans le Seigneur. Et ça, c'est pas que des paroles de versets, c'est pas que des paroles de psaumes, c'est pas que des paroles pour nous encourager, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Alors si c'est vraiment vrai, je peux prendre ce bouclier et dire c'est Dieu qui dirige la vie de mon offenseur. C'est Dieu qui va être le juge entre lui et moi. J'attends pas de justice par lui, par mon offenseur. J'attends pas cette justice de quelconque, mais Dieu est juge. Dieu, c'est celui qui va me rendre ce qu'on m'a pris. Il va me venger. Et Dieu est celui qui me protège. Placé derrière ce bouclier de Dieu, David est protégé. Il n'est pas seul. Parce qu'il compte sur Dieu pour établir la vérité, pour établir la justice et pour se protéger. Comment on se place derrière ce bouclier? Par une arme très très efficace qui s'appelle la prière. Est-ce que je le veux? Romains 12, 21 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal ». Et tout à l'heure, notre sœur, elle était vaincue par le malin. Et on a très bien vu dans quel état ça la mettait. Mais sois vainqueur du mal par le bien. Il s'est placé derrière cette protection parce qu'il savait quel Dieu il avait. Et il a pris l'épée de l'amour, et c'est le dernier clic. Il a pris l'épée de l'amour pour stopper toutes ces flèches qui empoisonnaient sa vie. Je repose ma question, le voulons-nous? Voulons-nous être libérés de ce mal qu'on nous fait en nous plaçant derrière ce bouclier? Dieu, lui, il a tout pardonné pour tout le monde sur la croix. Lui, il est allé jusqu'au bout de son chemin de pardon. Dieu est allé, je le répète parce que c'est très important, pour pouvoir me pardonner, il est allé jusqu'au bout de son cheminement. Et ce cheminement a consisté à, dans l'incarnation, son Fils qui vient marcher dans, sur notre terre, son Fils qui vient, qui devient homme, qui vient vivre notre humanité, notre misère. Et il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté en route. Il n'a pas dit, bon allez, c'est trop long, moi je vais vite au ciel. Il n'a pas fait appel aux anges pour qu'ils montent au ciel. Il est allé jusqu'au bout. Et son jusqu'au bout à lui était la croix. Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui a motivé Jésus pour aller sur la croix? Alors, je vais vous le lire, hein, ce qui l'a motivé. Alors, c'est un des plus beaux versets de la Bible. Il y en a plein hein, de très beaux. Mais... Hébreux. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 2 qui dit « En vue de la joie qui était proposée à Jésus, en vue de la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix, méprisé la honte et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Alors, prenons quelques minutes pour nous poser la question suivante. De quoi ça parle? C'était quoi cette joie? En vue de la joie qui était proposée à Jésus, Jésus a enduré la croix. Alors, il y a plein de théologiens qui ont fait de l'exégèse sur ce texte pour savoir, mais qu'est-ce que c'était que cette joie? Est-ce que c'était la joie de recevoir les bravos de son papa? Est-ce que c'était la joie d'être encore plus élevé dans la Trinité ou dans le ciel qu'avant son incarnation? Non, parce qu'il était déjà très haut. Il était déjà le plus haut, le plus élevé. C'était pas possible d'être plus. Mais c'était quoi cette joie? Quand Jésus marchait sur cette terre, quand Jésus, on va vivre bientôt Pâques, hein, on est en plein dans la période du carême, là. Quand Jésus, jour après jour, il savait qu'il marchait jusqu'au mont Golgotha, jusqu'à la croix. Quand il a reçu toute l'insulte, quand il a reçu toutes les, la misère de ce monde sur lui, quand lui qui donnait sa vie pour les autres, il recevait les crachats et les coups fouets, et quand il est allé sur la croix, ce texte nous dit qu'il avait en vue, qu'il avait devant lui une joie. Et c'était quoi cette joie? Pas la joie d'être crucifié. Non, ça c'était de la douleur. Ça c'était sa passion. Il avait en vue cette joie de te voir toi et de me voir moi réconcilié avec le Père. Moi, je sais qu'il pensait à moi. J'étais pas encore née. Mais je sais que pendant que le Seigneur marchait sur le mont Golgotha pour aller à la croix, il pensait à la petite Gemma qui allait naître dans les années 60, des siècles après. Et il avait tellement la joie de me voir l'enfant de Dieu. Il avait tellement la joie de savoir que j'allais pouvoir goûter à l'amour de Dieu. Il avait tellement de la joie de savoir que j'allais être réconciliée avec son Père, que j'allais devenir sa sœur, qu'ensemble nous allions former une famille. Il avait tellement de joie de te voir réconciliée avec Dieu le Père qu'il a accepté d'aller sur son chemin jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'était l'amour qu'il avait pour nous. Et plus que l'amour, cette joie qui le motivait de nous voir réconciliés avec le Père. C'est quoi notre chemin pour aller au pardon? Voyez, même pour Dieu, c'était un cheminement. Même pour le Fils, c'était tout un chemin d'accepter d'aller jusqu'au bout pour qu'il puisse nous pardonner. Et notre chemin à nous, on va s'arrêter en plein milieu? On va s'arrêter en plein milieu pour dire « Oh non, c'est trop dur, je laisse tomber ». Mes sœurs, même si ce chemin vous paraît long et dur aujourd'hui, je vous en conjure, je fais à la Paul là maintenant, hein. Je vous en conjure au nom de Christ, allons jusqu'au bout. Ne nous arrêtons pas en plein milieu, allons jusqu'au bout. Parce qu'au bout, il y a la victoire. Il y a la victoire parce qu'au bout, il y a la résurrection. Parce que le Fils n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Et la mort a fait jaillir la vie. Et la vie jaillit au bout de nos chemins de pardon. Pardonner, c'est lâcher prise, c'est lâcher tout cela devant le Seigneur. C'est le premier sens du mot pardonner. Tout à l'heure, vous disiez, mais on a beaucoup dit ce que n'est pas le pardon. Mais alors, qu'est-ce que le pardon ? Voilà ce que veut dire pardonner. C'est un verbe, il y a deux verbes en grec hein, qui parlent du pardon. Le premier verbe, c'est le verbe aphiemi, qui a ce sens de relâcher. Il est surtout utilisé dans les évangiles. C'est laisser aller l'autre, lâcher prise. C'est comme si, avec toute cette histoire d'offense et tout ce qu'on a raconté, on a constitué un gros dossier. Un gros dossier où on peut exiger réparation, où on peut exiger notre droit, on peut exiger plein de choses. Vous savez, les dossiers qu'on remplit devant un avocat ou devant un juge, je ne sais pas si ça vous est arrivé, on instruit les dossiers. Et ce dossier qu'on a instruit, on en fait quoi ? On va et on le remet entre les mains de Dieu. On le remet entre les mains de Dieu parce qu'on décide de se placer derrière le bouclier. On décide que maintenant ce n'est plus mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. C'est ça pardonner. Pardonner, c'est décider, c'est accepter que ce n'est plus mon affaire, c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui va juger, c'est Dieu qui va s'occuper de mon offenseur. C'est Dieu qui va régler mes comptes, qui va régler ses comptes. C'est Dieu qui va prendre ce dossier en main. Le Seigneur, il le prend pas et puis il le met à la poubelle, hein. Il le prend pour le traiter. Je vais compter plus sur Dieu que sur moi-même. Je ne vais pas exiger de l'autre qu'il me comprenne, qu'il reconnaisse sa faute. On va y revenir. Qu'il reconnaisse sa faute, qu'il me supplie, qu'il me répare. Je ne le lui demande pas à l'autre, mais je me remets à Dieu. Pardonner, c'est lâcher mes prérogatives. Mais vous savez, ce lâcher prise est très à la mode, hein. Il y a beaucoup de psys qui s'engouffrent, le lâcher prise par-ci, le lâcher prise par-là. Vous l'avez entendu, hein, plein de trucs. Mais le lâcher prise dont on parle, des fois, c'est un lâcher prise comme ça dans la nature, juste pour nous libérer. Le lâcher prise de la Bible n'est pas de même dans ce sens-là, hein. Le lâcher prise, c'est pas juste comme ça dans la nature. Le lâcher prise, c'est entre les mains de Dieu. C'est remettre ma cause à Dieu et le laisser faire. C'est exactement ce que David a fait dans cette histoire avec Saül, hein. Il a dit, c'est Dieu qui est entre toi et moi. Et c'est Dieu qui va me juger, qui va te juger. C'est Dieu qui va rétablir le droit. Et c'est Dieu qui va venger. Il y a un autre verbe dans le Nouveau Testament qui parle du pardon. C'est le deuxième verbe qui est plus employé dans les épîtres. Et c'est un pas qui va encore plus loin que se lâcher, abandonner notre créance, abandonner ce que l'autre nous doit, l'abandonner à Dieu. Ce deuxième mot veut dire accorder une grâce. C'est faire du bien. Paul l'utilise beaucoup. Et c'est l'accent qui est mis sur le gratuit. Faire le bien que l'autre ne mérite pas. C'est ce qu'a fait David. David a fait du bien à Saül alors que Saül ne le mérite pas. Même Saül s'en est rendu compte. Même Saül le lui dit à la fin. C'est désirer pour l'autre la vie au lieu de la mort. C'est désirer que l'autre vive. C'est comme ça qu'on peut lire ces versets de délier. Voyez, délier l'autre pour lui offrir un chemin de vie. Ne pas l'enfermer dans sa faute. Ne pas en faire juste un menteur, un tricheur, un tout ce que vous voulez, et même un violeur. Voyez, ne pas en faire juste un meurtrier. Ne pas en faire juste un coupable. Il n'est pas lié à son offense. Mais pardonner, c'est de le délier de son offense. Séparer la personne de ce qu'il a fait et lui donner un chemin de vie. C'est ce fameux « va et ne pêche plus », c'est un chemin de vie qui s'ouvre devant cette femme, comme l'a dit notre sœur tout à l'heure. C'est aller, lui dire « tu peux aller en paix, tu peux aller vivre ». C'est ça la victoire sur le mal, c'est en faisant du bien. Et c'est pour ça que la parole nous dit « priez pour vos ennemis ». Bénissez et ne maudissez pas. Faites du bien à la place du mal pour le laisser libre. Romains 12, on va lire Romains 12, 14 à 21, nous dit « quelque chose qu'on ne peut faire que si on a fait ce premier chemin du pardon. C'est quelque chose qui est ahurissant, qui est impossible à réaliser si on n'a pas remis notre dossier à Dieu. Hein. Si vous gardez toujours votre dossier dans votre poche, vous ne pouvez pas le faire. Si vous gardez toujours votre dossier au coin de la table pour le sortir au bon moment, vous ne pouvez pas faire Romains 12. On ne peut pas vivre Romains 12. Tout à l'heure, ce matin, je vous avais raconté ce gros bobo qui m'est arrivé. Et tout ce que je vous raconte, je le connaissais théoriquement. Et puis je me souviens que j'étais dans l'église et puis on prenait la scène. Alors voilà, ça aussi, hein. On voudrait oublier cette histoire du pardon et puis tous les dimanches ça nous revient. Si c'est pas par le Notre Père, c'est par la scène. Hein. Voilà, tout nous y rappelle. Et puis j'étais là et le Seigneur, il savait ce qu'il y avait dans mon cœur. Le Seigneur savait que l'offense que je vivais était vraiment un truc énorme. Il savait que c'était impardonnable, c'est pas possible quoi. Il savait toutes les conséquences que j'étais en train de vivre, il savait toutes les conséquences sur toutes les personnes qui m'entouraient, il savait tout ça. Il savait tout, j'avais pas besoin de lui raconter. Et pendant que le pain et le vin s'approchaient de moi, bon, alors le Seigneur qui me dit alors. Et là, j'ai pris conscience que je n'avais pas envie de pardonner. Que j'avais envie, j'avais besoin de garder tout ce dossier sous le coude. J'avais envie d'avoir le droit de crier à tout le monde, lui, il m'a offensé. J'avais envie d'avoir des droits sur l'autre. Vous voyez cette histoire-là? Et j'avais cette image en tête comme si j'avais une arme et que j'avais qu'une envie, c'était de décharger toutes les cartouches qu'il y a dans cette arme-là. Sur celui qui m'a fait du mal. Et Dieu qui me disait, est-ce que tu veux me donner ton dossier? Et théoriquement, je le savais. J'ai vécu quelques combats dans ma vie, mais alors celui-là, je m'en souviens. Ça durait là, concrètement, là, le pain s'approchait, le vin s'approchait, et puis le Seigneur me disait, j'avais l'impression qu'il voulait m'arracher ce dossier, là, il me disait, allez, donne-le-moi, tu veux pas t'en débarrasser? Donne-moi ton droit. Et puis le Seigneur qui, oh, il est tellement cool avec moi, il sait que je suis une grande sensible, alors il utilise beaucoup de tendresse avec moi. Et puis il me dit, mais ma petite Gemma, tu sais que je sais m'occuper de toi. Tu me fais confiance. Et il n'arrêtait pas de me dire, tu me fais confiance. Et moi je disais, oui, je te fais confiance. Et elle me disait, mais alors donne. Et j'avais pas envie de donner. Et il me rappelait, mais fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Et j'ai vécu exactement ce qui a été vécu tout à l'heure quand cette corde a lâché. Mais c'était juste, personne n'a rien vu, hein. C'était juste dans mon cœur, je disais, ok, je te fais confiance. Mais t'as intérêt à le faire, hein. Moi aussi je suis cool avec le Seigneur, t'as intérêt à le faire. Et puis lui il me disait, t'inquiète, je suis là, t'inquiète, j'assure. T'inquiète, moi je suis un papa qui assure. Qui ne laisse pas tomber ses enfants. Et vous savez, je vous promets qu'il a assuré. Je vous promets qu'il a plus qu'assuré. Alors après, une fois qu'on s'est débarrassé de notre dossier, on peut lire Romains 12. Souhaitez du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaitez du bien et non du mal. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut leur bien. Parce que le Seigneur veut les libérer de l'offense qu'ils font. Parce que le Seigneur veut les sauver. Parce que le Seigneur veut qu'ils retrouvent la paix eux aussi. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire du bien. Cherchez à faire le bien devant tous. Amis très chers, ne vous vengez pas vous-même. Mais laissez la colère de Dieu agir. Vous voyez? Dieu, il va agir, hein? Il le promet. En effet, dans les livres saints, le Seigneur Dieu dit, « À moi la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il dit pas, « Oublie ton droit. » Il dit, « Donne-moi, confie-moi ton droit. » Mais il dit aussi, « Si ton ennemi... Si ton offenseur si celui qui t'a fait du mal a faim, donne-lui à manger. Si tu as une occasion pour ne pas lui rendre, pour l'embêter, voilà, tu le laisses affamé. Si tu as une occasion pour l'embêter, n'en profite pas. Mais par contre, si tu as une occasion pour lui faire du bien, fais-lui du bien. Et s'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettais des charbons en brûlant sur sa tête. Tu es en train de l'aider à avancer pour qu'il soit libéré lui aussi du mal qu'il a fait. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Ne laisse pas le mal t'envahir, ne laisse pas le mal te pourrir la vie. Ne laisse pas le mal continuer à faire de l'effet sur toi. Il y en a qui ont eu une offense il y a 20 ans, et puis 20 ans après, ils en souffrent encore. Parce qu'ils ont laissé le mal avoir des racines en eux. Voyez, ne te laisse pas pourrir par le mal qu'on t'a fait, mais sois vainqueur du mal. Et la façon d'être vainqueur du mal, c'est par le bien. C'est par le bien. Le but du pardon, c'est la restauration, c'est la réconciliation, la restauration. Alors, ce premier pardon dont on a parlé, c'est ce pardon-là qui va me libérer, qui va me libérer de l'offense. Donc, en deux temps, en me mettant derrière ce bouclier, en déposant mon dossier devant Dieu, en prenant ce bouclier entre mon offenseur et moi, et le deuxième temps, c'est en faisant du bien, en donnant du bien là où il ne le mérite pas. Ça, c'est les deux pas du pardon. Voyez l'équilibre du pardon. Donc, vous pouvez se poser la question, mais on dit que le pardon, ce qui n'est pas le pardon, mais voilà ce que l'Évangile, le Nouveau Testament nous parle du pardon, ce qu'est le pardon. Alors, vous êtes posé la question, et je suis sûre qu'il y en a qui se posent la question, à savoir, mais est-ce que tout ça exige la repentance ou pas de celui qui m'a fait du mal? La repentance est indispensable pour une réconciliation. Non? Saint Augustin, il a dit, pour lui pardonner, c'est être prêt à accueillir l'offenseur, être prêt à le pardonner. C'est tout ce que je viens de dire, tout ce qu'on vient de raconter depuis ce matin, ça se passe entre Dieu et moi. Tout ça, peut-être que mon offenseur n'est même pas au courant encore, hein? Peut-être qu'il ne sait même pas encore tout ce qui se passe. Tout ça, c'est entre Dieu et moi. Et moi, j'ai besoin d'être libérée de l'offense qu'on m'a fait. Et cette libération ne peut se produire que par le pardon. Parce que si je dois attendre qu'il y ait une repentance pour que je pardonne, mais je serai liée avec ce mal pendant longtemps, non? C'est ça, pardonner, c'est le lâcher prise, c'est le laisser partir libre, ne pas le lier à son mal et vouloir son bien. Vouloir son bien. Si, imaginez un pont et il y a deux bouts du pont. Le premier pont, c'est le pardon, c'est à moi de pardonner. Mais pour qu'il y ait réconciliation, pour qu'il y ait un lien avec l'autre, oui, il faut qu'il y ait une repentance. Il faut que l'autre puisse reconnaître sa faute pour qu'il y ait réconciliation. Mais moi, ce qui est de mon ressort à moi, c'est de pardonner. Et si lui se repent, alors il peut y avoir réconciliation. Sinon, c'est compliqué, non? C'est tellement compliqué que même avec Dieu, c'est pas possible. Dieu nous pardonne. Dieu a donné la vie de son Fils à la croix alors qu'on était ennemis, ses ennemis. Mais même moi, je peux pas être réconciliée avec Dieu si je ne me repens pas, n'est-ce pas? S'il n'y a pas repentance, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Et ce serait même dangereux d'avoir une réconciliation. Mais à moi, ce qui est de mon ressort, c'est de pardonner. Alors, s'il y a réconciliation, repentance, il peut y avoir réconciliation. Et puis, on l'a dit un peu ce matin, ça ne veut pas dire que je vais faire confiance aussi tout de suite. Ça ne veut pas dire, même après repentance, hein, qu'on va repartir, oup là là, comme si de rien n'était. Mais ça veut dire que notre relation va être différente. mais elle va avoir lieu, il va y avoir une vie. Alors pourquoi pardonner? Parce que Dieu m'a pardonné. Parce que mon Dieu, il a tout fait, il est allé jusqu'au bout de son chemin à lui pour rétablir cette relation. Parce que je me connais comme quelqu'un qui est sous la grâce. Je suis gracié. Et pardonner, c'est juste reconnaître notre état. Comment pourrions-nous avoir conscience que nous sommes graciés de Dieu et refuser de pardonner? Est-ce que c'est compatible? C'est pour ça qu'il y a ces versets qui disent, mais que Dieu peut pas nous pardonner si on ne pardonne pas. Ça ne veut pas dire que son pardon est conditionnel. Toute la Bible dit que son pardon est inconditionnel, ce qu'il pardonne celui qui, le pécheur qui se repent. Mais ça veut dire que si je ne pardonne pas à mon tour, c'est que quelque part, je méprise complètement le pardon de Dieu. C'est exactement la parabole qu'on a lue ce matin. Hein. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait sur la croix, je dis que c'est valable, ouais, d'accord, mais moi par contre, non. Hein. Ça veut dire que je n'ai pas compris ce qu'est la grâce de Dieu. Alors, si je peux me permettre un conseil, à chaque fois que j'ai du mal à pardonner, je demande à Dieu de m'aider à découvrir la grâce. Seigneur, fais-moi goûter à nouveau à ta grâce pour que je puisse la partager. Fais-moi goûter à nouveau le bon goût, la saveur de ta grâce pour que je puisse continuer à pardonner. Le problème, c'est que dans notre marche avec le Seigneur, on commence à oublier d'où on vient. Ce matin, je lisais dans Ésaïe, « N'oublie pas le rocher dont tu as été tiré. N'oublions pas d'où nous venons. Nous venons d'où ? Nous venons d'un état de péché que le Seigneur nous a fait grâce, il nous a rachetés, il nous a lavés, il a fait de nous ses enfants. N'oublions jamais qu'on ne nous méritons pas d'être les enfants de Dieu, mais c'est par grâce que nous le sommes. Alors, il nous donne du coup un privilège énorme, non seulement de recevoir sa grâce, mais de la répandre. Non seulement de recevoir son amour, mais d'aimer à notre tour. Non seulement de recevoir son pardon, mais de pardonner à notre tour. C'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir être ambassadeur du Christ, d'être juste ambassadeur, d'être les témoins du royaume de Dieu. Tout simplement. Et par notre présence sur cette terre, on est en train de témoigner, de manifester que c'est possible. Que c'est possible, que le royaume de Dieu est déjà là. Que le royaume de Dieu est déjà là. C'est un royaume d'amour, c'est un royaume d'espérance, c'est un royaume de joie, c'est un royaume de paix et que Dieu est venu pour rétablir la paix. Mes amis, je voudrais vous laisser avec ce verset de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 18, qui nous dit « Tout vient de Dieu ». Qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Oh, c'est génial, on peut avoir le texte directement. Par notre entremise, au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Tu veux vivre ce ministère de réconciliation? Alors commençons en pardonnant. Comme nous avons été pardonnés.
Cet enregistrement vous a été proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Écoutez et téléchargez gratuitement des milliers d'enregistrements. www.trésorsonore.com